I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Camille et Justine et bienvenue dans On se tient au jus. Aujourd'hui, on est avec Aim, Réa. Et on boit rien. On boit rien du tout, parce qu'on n'a pas soif et on est en digestion. Yeah.
Son vrai prénom, c'est Annabelle. Oui, à c'est votre ça. Avis, pour l'acrostiche, on a choisi M-A-I-M ou Annabelle?
Fin du suspense, ouais, fin immédiatement. Enfin, bientôt. Alors, A comme astucieuse, elle ne trouvait pas le contenu dont elle avait besoin sur les réseaux sociaux, donc elle l'a créé.
Incroyable. I comme identification, elle parle de sujets intimes et universels comme l'afroféminisme, les poils, la santé mentale, à travers de photos et vidéos décomplexantes, éducatives et drôles.
M comme meuf de cité, elle a créé le super podcast On est là, qui donne la parole à ces femmes trop souvent invisibilisées ou pointées du doigt. Donc on a choisi AIM, voilà,
oui,
fin du suspense,
on a
c'était
mis,
plus facile, mais on a... ça va, c'est une bonne description.
J'adore vos intros, je suis hyper fan, trop bien.
Et alors,
elle part déjà un peu dans tous les sens.
Ça part. Du coup, donc ton pseudo Instagram et YouTube, parce que c'est donc là-dessus que tu fais tes contenus, c'est AIMREA, A-I-M-R-E-A.
Oui, c'est ça.
Et tu t'appelles Annabelle.
Oui, donc ça n'a rien à voir.
une explication peut-être.
Oh là là, si vous voulez vraiment l'explication, ça va durer 100 heures. Non, en fait, j'ai...
100 heures.
Alors. Non, mais en fait, il faut comprendre que moi, j'ai commencé Internet, j'avais 13 ans. Mm-hmm. J'ai commencé YouTube, j'avais 13 ans en cachette.
Et c'était quand?
Quand j'avais 13 ans?
Ouais, en quelle année?
Waouh, je sais plus.
Bah, t'as quel âge?
J'ai 26 ans.
Donc il y a 13 ans.
Il y a 13 ans, voilà.
La moitié de ta vie, t'as passé sur les
réseaux. Donc, t'as commencé en 2010, en somme.
Oh, voilà, en gros.
Bah, caisse ou quoi?
Attends.
Oh, waouh.
Bah, pas du tout. Non.
Ah, ok. Mais,
évidemment
juste
pas.
Intelligence.
Après, ouais, 2023 moins 13.
Oui, tu vois, c'était pas le plus difficile, finalement.
C'est vrai.
Donc, t'as commencé les réseaux en 2010.
Et à l'époque, je croyais trop que j'étais fan de mode. Et donc, je m'appelais The Fashion Net Video. The Fashion Net Video. Je sais pas, je parlais pas anglais. Je croyais trop que j'étais stylée.
Je croyais que j'étais fan de mode, j'adore ça.
Oui, non, mais parce que voilà, c'était à l'époque les youtubeuses sur internet, elles faisaient des hauls et c'est comme ça qu'on les connaissait. Enfin, moi,
oui,
je
c'est
que...
vrai, mais c'est pas moi.
Je connaissais que les youtubeuses qui faisaient des hauls et je me disais, mais si je dois être sur internet, alors il faut que j'ai de l'argent et donc il faut que j'ai des vêtements et donc il faut que je sois fashion. Et je disais que mon mot préféré c'était fashion. Voilà.
Oh, putain, mon mot préféré.
Oui, j'avais des mots préférés, j'avais kiss et fashion.
Bah oui, et des mots english.
Voilà.
Et en attends, ça veut dire quoi déjà, haul?
Je sais plus,
un déballage c'est... de vêtements,
ouais,
oui, mais ça. Non, mais je sais, mais H-A-U-L, ça a une...
Ah, j'en ai rien.
Une traduction, tu veux dire?
Ouais, bah merde. Bon, mais en tout cas, c'est montrer en direct. Ça peut être un haul course, genre
oui.
Je vous montre ce qu'il y a dans mon sac,
oui,
de ce que je viens d'acheter chez Franprix. Jamais
aussi,
trop compris,
ouais,
ça. Et, mais ça peut être un haul brocante.
Voilà. Mais moi, c'était j'accumulais des gels douches quand j'allais aux courses avec ma mère, et après, sur 3 mois, je faisais genre que je venais d'acheter 15 gels douches. Voilà, et en fait, en grandissant, enfin, j'ai abandonné ma chaîne YouTube, j'en ai fait quand j'étais plus jeune, puis après, je l'ai laissé mourir.
Elle n'existe plus? Fashion Net.
Ah si, j'ai juste...
Non, vidéo juste... Fashion Net vidéo.
C'est toujours la même chaîne YouTube, j'ai juste changé le nom.
Ah oui.
Et en fait, il y a plusieurs explications de mon nom. C'est qu'en fait, à l'époque, j'écoutais énormément de rappeurs. Donc, quand j'avais 17 ans, j'ai repris ma chaîne YouTube, j'ai changé de nom et je ne savais pas quoi faire et je ne voulais pas mettre mon prénom. Donc, j'aimais bien... Il y avait beaucoup de rappeurs à l'époque qui avaient des noms avec 3 lettres.
Ouais, genre B.O.B. et tout.
Non.
Quoi, B.O.B. Vous vous
c'est
rappelez
qui pas ah, ah oui, B.O.B. c'est vrai, B-O-B. Oui, c'est vrai. Mais moi, je pensais plutôt genre à PNL, PLK, tous ces gens-là.
Ah oui, ok.
Plus francophone.
Oui, aussi. Ok, oui, aussi.
Et donc, en fait, je cherchais un nom et en fait, il y a eu 2 déclencheurs. AIM, c'est genre la cible, l'objectif, tu vois, le but. Je trouvais ça un peu stylé en anglais. Et il y avait la rappeuse Mia. Et
ah oui, M.I.A.
Voilà, et donc j'ai juste
c'est pour ça que
les lettres.
Et c'est pour ça que t'as mis un point entre chaque A.
Oui,
et
oui. Ça est parce que j'aimais bien faire des logos et je trouvais que ça rendait mieux en logo avec des points. Et après, j'ai pas réfléchi que les gens, ils allaient pas savoir dire mon nom et que moi-même, j'étais là genre AIM.
Et t'as pas envie aujourd'hui de repasser à Annabelle? Ça serait trop chiant. Enfin, je dis pas que c'est mieux.
Alors,
sais rien, mais...
maintenant, quand tu tapes Annabelle sur Google, t'as à peu près 500 photos de poupées maléfiques. Et du coup, genre...
C'est vrai, c'est vrai.
C'est un peu chiant.
Bah oui, c'est le film qui fait trop peur, là.
Voilà, c'est ça. Et puis même, genre, je crois que j'avais besoin de me détacher un peu. Genre, il y a la meuf d'Internet, okay. Et puis il y a moi dans la vie. Et même mon prénom, je le dis hyper rarement, en fait. Je le dis quand je me présente ou quand je fais des interviews, des choses comme ça. Mais en vrai, mon prénom sur Internet, je le dis rarement. Donc je pense que même si je mettais mon prénom, par exemple, dans ma bio, je ne mettrais pas Annabelle, je mettrais peut-être Anna. Parce que j'ai besoin
de... D'accord. D'avoir une différence,
ouais,
une distance.
C'est ça.
Contrairement à nous.
Oui, voilà. Mais après, c'est beaucoup plus pratique. Je trouve que c'est plus facile en communication d'avoir juste son prénom. Parce qu'avec le recul, je regrette tellement d'avoir
moi, j'ai surtout l'impression que toutes les personnes qui commencent avec un pseudo basculent à un moment en remettant leur vrai nom.
Oui, finalement.
Là, j'ai beaucoup vu ça sur les réseaux sociaux, notamment. Donc je me dis, finalement, nous, au début, on était là. On a vraiment pris Camille et Justine. Parce qu'on n'avait pas d'idée. Enfin, on trouvait rien d'autre.
Je pense qu'on se disait probablement à l'époque que c'était quand même un peu claqué de mettre ça et qu'on
pouvait faire un effort. Fiers de nous.
Hein. Non, je pense pas. Pas très fiers de soi. Mais avec le temps, on se dit au moins.
Sinon, on serait arrivé à ça à un moment. Parce que sinon, en fait, j'ai l'impression que quand tu choisis un pseudo, c'est toi un instant T ou alors ton contenu.
Oui, comme The Fashion Net vidéo.
Et encore un pseudo, ça va, parce que oui, voilà, c'est ça. Alors que genre une phrase, genre The Fashion Net vidéo, ou genre tu sais des phrases. On connaît un peu des comptes féministes qui ont une phrase en guise de pseudo Insta.
Et dès que tu veux élargir,
C'est hyper difficile de la nommer, genre.
Oui, puis quand t'appelles dans la rue.
Oui, grave.
D'un coup, c'est moins sympa.
Oh, c'est toi, I am next in fashion.
yes, it's me.
Et du coup, quand on te cherche, quand on lit un peu ta description, on retombe donc souvent sur femme métissée, bisexuelle et banlieusarde.
Ah ouais, ok.
Ouais, c'est comme ça que tu te décris, c'est comme ça qu'on te décrit, c'est réducteur ou au contraire c'est réaliste, c'est important de le dire ou c'est chiant, tu vois.
Bah, je crois que c'est réaliste. C'est réaliste. Déjà pas mal. Donc je vais pas genre être en mode non, ce n'est pas moi. Non, si, ça me définit quand même beaucoup. Et en fait, c'est surtout que ça définit pas tant moi dans la vie que les sujets que j'aborde. Parce que je pourrais être toutes ces choses-là, toutes ces étiquettes, et parler juste de cuisine toute la journée sur Internet.
Oui,
donc ça définit quand même beaucoup mon contenu et les angles que j'aborde, plus que qui je suis en particulier. Mais bon, c'est pratique pour se retrouver et pour concentrer les gens quand ils arrivent. Bah, quand ils vont voir par exemple toutes mes vignettes sur Instagram, ils vont dire ah, elle parle de ça, ça me parle. Donc ouais, c'est réaliste et à la fois c'est juste des angles aussi de discussion.
On est vraiment sur une bonne intersectionnalité, quoi.
Ah ben moi, j'ai été gâtée par la vie. Je dis souvent vraiment que j'ai de la chance parce que j'ai été vachement gâtée. J'en fais souvent des blagues. Surtout, je crois que le fait d'être métisse et bisexuelle, je pense que ça, c'est vraiment la blague de ma vie. Parce que je crois que vraiment, j'ai pas le droit d'être...
C'est middle, choisir.
Ouais,
middle.
Voilà, j'ai tout le temps constamment le cul entre deux chaises. Et comme on dit, à force d'avoir le cul entre deux chaises, on finit le cul par terre. Et moi, des fois, j'ai l'impression d'être juste assise par terre.
Comme Louise et Joseph.
Je suis déjà... C'est...
Oh, assise par terre. Mais pour moi, c'est Christophe Maé. Mais non, c'est Louise et Joseph, l'ancienne meuf d'L5.
Ah, c'est par terre.
Bah oui, non, mais je l'ai. C'est vrai que ça pourrait être Christophe
May. C'est par terre.
Je trouve que ça pourrait être Christophe May.
Là, j'ai un doute.
Mais non, j'en ai pas. C'est Louise et Joseph. Ouais. Mais par contre, je suis d'accord qu'on dirait un peu Christophe May.
Donc j'allais du coup
voir
faire
le monde par terre. Bref, pardon, c'était vraiment tout ça pour faire une vanne.
On s'attache, je trouve pas que ça y a le même.
Il y a le même investissement de début de phrase.
Parce que je pense que ça marque une époque en fait, ce genre de.
Oui, en fait.
C'est plus une époque, 2010. Une façon de chanter.
Pourquoi ils démarraient tous comme ça
Parce qu'à la radio, quand ça démarre, tu sursautes un peu, hop, et tu te rappelles.
Ah oui, c'est à mon tour. Non, pardon, tu disais.
Moi je suis super facile à distraire alors.
Que t'étais souvent assise, que à force d'être le cul entre deux chaises, tu te retrouvais assise par terre.
Très régulièrement. Ouais. Mais bon, du coup, ça c'est pas très confortable, mais on s'y fait quoi.
Et quoi, c'est tout ça qui t'amène à. Bah, en fait, c'est ce qu'on dit dans l'acrostiche de tu te reconnais pas, donc tu crées du contenu.
Oui.
En même temps, effectivement, surtout il y a encore quelques années, là ça bouge beaucoup, mais il y avait peu de représentations variées en fait sur nos écrans et sur YouTube. Moi, j'ai pas du tout consommé YouTube avant. Je le consomme presque encore pas. Okay. Je regarde que de l'ASMR, mais du coup, vous allez peut-être plus être à même de répondre. Mais au début YouTube, j'imagine quoi, il y avait que des blancs, que des femmes blanches qui faisaient des choses.
Ouais, bah moi, je regardais que des femmes blanches sur YouTube quand j'étais plus jeune, et puis plutôt aisée. En fait, je pense que c'était surtout ça qui me perturbait parce que Bon, femme blanche, ça me... oui, je me sentais pas représentée, mais quand t'es petite, de toute façon, t'as que ça comme représentation. Oui. Donc très vite, tu t'identifies quand même. C'est comme les princesses Disney. Au bout d'un moment, quand on est petit, on dit pas « Ah, pourquoi elle me ressemble pas ?» On se rend pas compte. C'est plus tard,
c'est
en
plus
fait,
tard, ouais.
Ouais, qu'on voit le problème. Donc ça, ça me choquait pas. Par contre, moi, ce qui me travaillait plus, c'est le côté financier. Parce que bah, elle marchait parce qu'elle faisait des hauls. Elles achetaient du maquillage, elles achetaient des vêtements. Et donc moi, j'étais super... je me disais « Oh, comment elles font ?» Elles ont beaucoup d'affaires, elles ont tout le temps des trucs à montrer. Je me disais, mais moi, j'ai pas, je peux pas. Enfin, ma mère, encore, elle m'achetait des trucs, mais bon, voilà quoi. Il fallait négocier, fallait que j'en ai pas le deux fois. Si ouais. je demandais, je sais pas moi, un mascara, elle allait me dire, mais t'en as déjà un, qu'est-ce que je veux, de mascara. Et elles en montraient plein. Et donc, je crois, c'est plus sur ce truc-là que je me suis dit, ah, moi, y a pas trop de youtubeuses qui font des trucs comme moi. Et donc, quand j'ai commencé YouTube, c'est ça que je disais, j'ai acheté plein de choses. Genre, j'allais faire les courses avec ma mère tous les samedis. Je prenais toujours un truc, deux trucs, un t-shirt en solde, un gel douche, un truc, voilà. Et il fallait qu'il y ait une marque dessus pour que voilà, ça soit joli sur YouTube. Et après, j'accumulais plein de choses et je montrais mes trucs sur Internet. Mais en fait, c'est des trucs que j'avais...
Tu montrais du shampoing ?
Ouais, je montrais du shampoing.
Ça intéresse les gens ? Enfin, c'est... Pardon,
ouais,
je dis,
ça... Ben ouais, ça intéresse. Ouais.
Non, mais c'est ça ce que vous regardez. Toi, t'as regardé aussi ce genre de vidéos ?
Non, moi j'ai consommé YouTube un peu tard, mais je vois quand même un peu le process de genre
les débuts d'Etchel et Phoenix, tu vois, un petit peu...
Ouais, ouais. Jamais... En fait, j'avoue, je connais pas du
tout. Bah, en vrai, c'est un peu... c'est sans jugement, mais c'est un peu raconter des trucs insignifiants.
Bien sûr,
les gens kiffent, mais moi aussi je kiffe, donc c'est pour ça que je dis sans jugement. Après, il y a insignifiant et insignifiant. C'est vrai que, par exemple, le hall rentrée du supermarché. Moi, à chaque fois, je me dis un peu, oh, bah, dis donc.
Ah, en temps d'inflation, c'est super intéressant.
Mais c'est vrai, s'il y a un
Moi, je regarde les retours de course en ce moment
si
sur TikTok.
Si c'est un peu engagé, si la personne dit le prix de son panier de course à la fin, ça peut être intéressant. C'est pas souvent le cas, mais.
Non, c'est pas souvent le cas.
Mais ouais, je sais plus ce qu'on disait, mais oui, donc, parce que, en fait, il y a un truc de genre, j'ai acheté ce shampoing et du coup, voilà, ça me fait tel cheveu.
Oui.
Peut-être
ouais,
ça peut
c'était
intéresser.
Un peu ça.
Mais en fait, oui, c'est du lifestyle, c'est... beauté. Ouais.
C'était plus de l'étalage. Moi, je sais, quand j'étais jeune, je le regardais vraiment par envie. Un peu comme quand on regarde, je sais pas, un peu, c'est aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec les Kardashian, c'est « Ah, oh, elles sont riches, et elles ont tel vêtement, ah, oh, c'est les dernières bottes, je les ai pas, mais voilà, je vais regarder pour me dire qu'un jour je les aurai, pour rêver un peu, pour se projeter dans des trucs. Ben, » Moi, c'était ça, je regardais
pas. Ah, mais c'est comme ça que vous faites pour être à la mode, en fait.
Oui, voilà.
C'est pour ça que j'ai jamais été à la mode, parce que je regardais pas du tout ça, donc j'en sais rien, moi.
Après, c'est plus du tout le contenu que je consomme aujourd'hui, je tiens à préciser, hein, j'avais 13 ans.
Oui, mais aujourd'hui, il y a d'autres... Non, mais en vrai, je le dis même pas en blague, enfin, pour de vrai, en fait, du coup, c'est un peu comme ça.
Oui,
fait,
c'est comme
si
ça
on veut
qu'on
être
fait.
Un peu à la pointe,
oui,
c'est qu'on
fait.
Suit ce genre de personnes qui nous retransmet, ou on achète les magazines. Ou...
Mais bon. Oui, non, mais où on s'y intéresse de base, c'est que toi, tu t'y intéresses même pas.
Enfin, oui, je veux dire, parce qu'avant les réseaux sociaux, moi, j'ai toujours été un peu dans ce truc de la mode, genre je kiffe la mode, tu vois, et au collège, lycée, il n'y avait pas ce truc de réseaux sociaux, donc je consommais pas des vidéos YouTube pour être à la mode, mais juste
Oui,
bah, je sais pas,
des
magazines People, des trucs comme ça.
Déjà, tu suis le nouveau
truc
qui permet d'avoir des
infos. Oui, c'est ça.
C'est que toi, de base, ça te préoccupe pas, enfin donc
bon aussi un peu plus là.
Oui, maintenant. Mais en fait c'est j'ai pas tellement envie de faire d'efforts, enfin je
oui voilà
voudrais...
c'est ça
je
t'en
regarde
fous,
et
c'est
pour ça que j'arrive 3 ans trop tard, enfin,
oui.
Je vais jamais être précurseuse d'un truc de mode, hein. Il faut 3 ans que ça soit vraiment rentré dans ma tête,
genre là tu mets des slims et des ballerines par exemple,
c'est ça que tu veux dire,
bah non,
mais
que
en fait
dire,
je serais précurseuse,
exactement,
là je mets...
Mais là tu serais même dans la mode vu que ça revient à la mode,
donc non, il me faudra, si vraiment on doit revenir aux slims et aux ballerines, c'est...
Toi, tu seras 3 ans plus tard.
Mais je le ferai quand vraiment ça fera.
Ou le fait pas,
ans,
au pire, le fait vraiment pas. Au pire, ouais,
au
pire,
le fait pas. Vous dites ça, vous allez le faire. Vous.
Non, parce que moi, pendant longtemps, j'ai suivi vraiment les modes. Mais justement, voilà, il y avait une mode pour ceux qui écoutaient, enfin qui regardaient YouTube à l'époque, on avait tous la bague moustache. Il y avait le collier avec des moustaches.
Oui,
c'est à l'époque.
C'est vrai.
Ah, c'est vieux.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais ça, c'est des achats que j'ai fait par mimétisme. Et stop, je fais plus ça. Parce que c'est en fait, tous les trucs que j'ai fait par mimétisme, c'était les pires choix de ma vie. Genre, j'ai eu des ballerines doré avec des têtes de mort dessus que j'avais acheté au marché de Bagneux, je précise parce que c'est important, et j'avais saoulé ma mère pour avoir mes ballerines. Je te jure, déjà je puais des pieds, on va pas se mentir. Je suis désolée pour les gens qui ont des ballerines.
Arrêtez d'en mettre.
Ça pue des pieds.
Ça pue grave des pieds.
Et elles étaient vraiment laides, mais vraiment. Et je sais pas si je les aimais vraiment à l'époque ou si vraiment j'étais trop heureuse d'avoir les mêmes que la meuf d'internet.
Mais faut pas oublier que quand on le voit partout dans l'espace public, moi je sais que quand les bananes sont revenues, j'ai pété mon crâne.
Elle m'embrouillait tous les jours. Elle a une banane.
Tu la vois plus. On les met pas pareil. On les met pas pareil qu'à l'ancien temps.
Oui, mais
à l'ancien temps, c'est quand même assez pratique.
Pratique. un peu Patrick.
C'est un peu Patrick, c'est vrai, mais pratique aussi.
C'est comme les Crocs, hein. Ça fait 2 ans que c'est vraiment hyper.
Ah, ça y est, c'est à la mode, genre.
Ah ouais, il y en a.
Bah, les Birks.
Ah bah oui, bah ça fait un moment quand même.
Moi, j'ai l'impression que ça a jamais pas été à la mode, les Birks. En vrai, c'est un peu le truc sur le long terme de la mode, mais il y a des gens qui aiment et qui aiment pas.
Ça dépend des choses. Le podcast se transforme si jamais en chronique mode. Est-ce que vous avez déjà fait ça dans ce podcast?
On t'a dit, si on parle de tout de rien, et ça peut partir.
Ok.
Et ça dépend de l'invité. Et toi, t'es une spécialiste de mode.
Oui, mais attendez, après, les gens, ils vont retenir quoi de mon podcast? Ils vont dire, oh là là, Annabelle, elle parle de Marine pendant 1 heure.
Et de Crocs. Non, mais du coup, par contre, l'effet de mode, c'est un truc quand même intéressant, quelque part.
Je suis d'accord.
Moi, ça me... Quand je rentre voir mes potes qui habitent pas à Paris, et j'arrive avec ma banane... Bah,
ils sont là, ça va la parisienne.
Mais non, MDR, t'es une banane.
Oui, mais attendez, c'est super pratique. Moi, je trouve qu'on parle pas assez de la praticité. Moi, je sais que je cède aux modes qui sont confortables. Mm-hmm. Je cède pas aux modes qui font mal aux pieds. Moi, je cède aux modes qui sont confortables.
Ouais. Mm-hmm.
Vraiment. Si c'est pas confortable, c'est pas à la mode pour moi. Genre, c'est confortable, ça peut être à la mode. C'est pas confortable, ça dégage de ma vie. à part les sacs à main à la con. Ça, c'est bon. Ça s'est passé.
Mais c'est comme tout. Hein. Toi, tu penses que plus tard, quand tu seras vieille, tu seras pas une vieille conne, là, comme tous les vieux?
Ah, tu penses?
Bien sûr que si.
Ah, moi je serais une vieille conne, c'est
sûr. Si, je serais une.
Ah
ouais. Si, je serais. Genre facho?
Non.
Non, bah tu peux enfin.
Bah enfin, je meurs. Qu'est-ce que je vais me faire si je suis facho? Je vais m'enfermer dans une pièce et je vais me punir. Je vais m'enlever des droits moi-même. Ah non. Mais je pense que je serais une conne dans le sens aigri, genre je ferais les jeunes.
Oui,
ils font chier les jeunes. Ah, oh, et puis leur nouvelle mode, là, on comprend rien. Leur musique, on comprend rien. Peut-être que je serais cette personne, par contre, tu vois.
Ça se peut. Mais j'ai un peu hâte. On travaille un peu pour pas le devenir. On peut.
Oui, on peut. On va forcément
être saoulé de certains trucs et j'aimerais quand
même. Moi, ça commence déjà. Hein,
J'aimerais bien être quand même une vieille, tu sais, qui va en manif comme on voit des fois.
Je les adore.
Il y a des vieilles personnes en manif et je les adore. Enfin, en manif. Pas la manif pour tous, du coup.
Non.
Mais en autre.
Il y en a beaucoup quand même là-bas.
Bon, merci de préciser. On se doutait pas du tout que tu parlais pas de celle-là. Mais en tout cas, en manif pour les droits humains, on va dire, je kifferais être encore ce genre de personne, tu vois.
Ah ouais, grave.
Qui est encore très engagée. Mais à tout moment, j'aurais peut-être pas, donc on verra bien, mais...
Moi, je me verrais bien, tu sais, grand-mère qui a plus rien à perdre et qui se met en face, qui fait barrage,
Ah, les vieux qui vont parler aux keufs, là.
Ceux-là.
Mais vous n'avez pas honte.
Ah, voilà, c'est ça. Tu l'as vu, cette vidéo? Ah, j'ai une petite dame, elle m'a fait tellement de la peine, comme ça, une petite mamie qui disait, mais comment vous pouvez faire ça? Ils souffrent, les gens, ils pleurent, ils ont mal.
Oui, et elle est dans le mal,
elle est au bout de sa vie. Et t'as un monsieur qui essaie de lui dire, venez, ils vont peut-être vous frapper, madame, on sait jamais. Et elle est là, genre, je m'en fiche, ils ont qu'à me frapper. Elle a plus rien à perdre. Voilà, moi, je serais une vieille qui a plus rien à perdre, vraiment, je serais en mode, allez, il me reste quoi, 5 ans? Allez, je m'assois devant, je m'assois devant les canons à eau, j'en ai plus rien à faire.
Et on se souviendra de moi, je ferai la une de Libé en photo. Ce serait grave beau.
La grand-mère sacrifiée.
Une vieille grand-mère assise face au canon à eau, une de Libé, ce serait beau.
Et puis s'ils osent gazer une grand-mère, ça va réunir le peuple encore plus là.
Ne vous inquiétez pas, on sera plus là.
Oh, wow.
Parce que là, on parle de qu'on sera une vieille grand-mère, 46.
Oh waouh, l'ambiance. Oh, wow.
On parle dans plus 40 ou plus 50 ans. Peut-être qu'on sera plus là.
Non, je pense qu'on sera là, mais on crèvera de soif et d'air.
Allez, un podcast avec de l'espoir.
Ah, moi, donc, je suis pas trop d'espoir, moi.
Non, mais non.
Non, moi, je suis pas trop d'espoir.
T'es plutôt pessimiste.
Moi, je suis plutôt, comment dirais-je, je suis plutôt en mode, le monde est méchant de base, la vie est pas sympa, donc je me dis, voilà, on va profiter de ce qu'il y a à profiter.
On part de ce postulat, quoi.
Voilà, c'est ça, mais en fait...
On va pas changer ça.
Ouais, en fait, je suis pas trop... Après, en fait, il y a une part de moi qui relativise beaucoup, parce que, en fait, des fois, quand je rembobine la vie, je me dis, bon, il y a 10 ans, c'était comment? C'était pas un peu pire? Pas pour l'état de la planète, je parle vraiment d'un point de vue social. Parce que, tu sais, c'est comme la question, on te dit, ouais, à quelle époque t'aurais aimé vivre? Et moi, tu sais, je regarde les gens et je suis en mode, tu veux que je vive à quelle époque, mec? Je préfère, franchement...
Il n'y a aucune époque où c'était bien pour moi.
Ah non, mais je veux pas vivre dans le passé. Si je vis dans le passé, je suis foutue, j'ai pas d'époque qui m'intéresse. Genre, non, c'est vraiment pas... Donc en fait, en réalité, c'est horrible à dire, mais l'époque actuelle, c'est la meilleure pour moi. Même si ça pue la merde le futur, moi je suis en mode, mais donnez-moi rien d'autre. Donnez-moi le futur encore, peut-être. Il y a peut-être un miracle qui va se passer, mais me donnez pas le passé. Parce que les gens, ils sont un peu nostalgiques. Ouais, dans les années 80, il y avait ça qui était sympa, il y avait pas encore le machin. Genre, non, les années 80, j'en veux vraiment pas.
Ouais.
Donc, je suis pessimiste en mode, bon, en vrai, je pense qu'on fera pas de choses extraordinaires.
Mais il y a quand même du mieux un peu.
Ouais, moi, je suis en mode, bon, voilà, en vrai de vrai, là, 2023, peut-être on va pas trop respirer dans quelques années, mais là, tout de suite maintenant. Je veux pas trop demander, genre je veux pas être nostalgique de quelque chose dont je rêve pas non plus, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Donc je suis dans l'actuel et puis on verra la suite.
YOLO.
YOLO One Life. Carpe diem.
Carpe diem.
Carpe diem.
Tu t'es fait tatouer ça il n'y a pas longtemps, Camille. Carpe diem.
Ah, c'est tellement pas moi.
Pourtant, c'était à la mode à une époque.
Voilà. Quel enfer, ceux qui se sont fait tatouer ça dans le bas des reins. Là.
Ah ouais.
Dans le bas des reins. S'il y a des gens qui nous suivent et qui avaient un tatouage dans le bas des reins ou carpe diem, vous regrettez en vrai ou pas?
C'est sûr. Après, s'ils sont sur mode carpe diem, tu vois, ça a toujours du sens, hein, mine de rien. Oh. C'est parce que, en fait, le truc, c'est qu'en soi, la phrase, elle n'était pas pourrie.
Non, oui, non. C'est vrai. Et puis surtout, les tatouages ringards à l'ancienne, là, ils redeviennent à la mode aussi.
Mais qu'est-ce que vous me saoulez, cette mode-là?
Bah, écoute, non, mais pour non, revenir vrai, à ça, c'est vrai, les meufs qui s'étaient fait des papillons dans le bas du dos, et ça redevient à la mode, là.
D'après qui? Les signes tribaux, là, machin, autour des bras.
Oui, c'est vrai.
Il y en a qui refont ça en mode aujourd'hui, en mode coucou, c'est la mode.
Ouais, les cœurs avec, tu sais, les petites flèches dedans. Il y a des nouvelles.
Là, c'est les années 2000. Camille, tu comprends? Tu pourrais te mettre un virus aux oreilles que ce serait
mais oui,
la
mais
mode.
C'est un non mais d'accord, mais là on parle d'un tatouage.
Je suis d'accord.
C'est-à-dire que moi je mets pas une immense importance sur le fait que tous les tatouages doivent avoir le plus grand des sens parce que c'est des ornements et c'est cool. Par contre, de là à se faire tatouer un truc qui est juste à la mode en ce moment, c'est quand même très risqué. C'est te faire tatouer le nom de ton mec aussi.
Je suis assez d'accord.
Débile genre.
Vous êtes débile.
À la rigueur, si je me mets deux virus aux oreilles, pour ceux qui savent pas, c'est pas juste un virus, c'est pas le Covid accroché à mes oreilles, c'est des petites boucles d'oreilles, mais les gens qui
en espèce de gomme là, vous voyez, avec des piques multicolores ou pas,
Ah, c'est ça que t'appelles les virus aux oreilles.
Bah oui, j'aurais virus parce que je suis pas sûre que tout le monde l'appelle les virus, c'est pour ça qu'il faut bon préciser.
Ah, pour moi c'est boucles d'oreilles virus.
Et la matière c'est vraiment de la gomme.
Tu appuies, ça fait. On dirait qu'on peut les mâcher.
Ouais, exactement.
Ils en vendaient à Claire.
Exactement.
Évidemment qu'ils en vendaient à Claire.
Mais ils en vendent encore. Je pense qu'ils en vendront toute leur vie. Ils ont des stocks à écouler, c'est mort. Il y en aura toute la vie.
Claire, la tête de ma mère Claire, ça fait 20 ans, ils font 3 articles achetés, 3 articles offerts, ils n'ont toujours pas vidé leur magasin.
Vraiment, la dernière fois, je suis allée chez Claire, parce que vous dites à Claire d'ailleurs.
Moi, je connais pas cette règle. J'ai toujours pas
moi non plus.
Quand est-ce qu'on dit chez
pour
A.
Coup, pour les... ouais. Et bon, vous dites je vais à Action.
C'est chiant. Ah ah.
Bah ouais, je vais à Monop.
À Lidl.
Au Monop.
Bref.
Et la fois que je suis allée chez Claire's, donc, parce que j'ai l'impression que c'est un prénom un peu chez Claire's, la meuf, elle m'a demandé, elle m'a supplié de lâcher un commentaire de Claire's pour redorer.
Comment ça?
Un peu l'image, genre de lâcher un bon com et tout. Genre, on vend pas assez de trucs alors qu'il y a toujours ces promos, trois trucs.
Attends, mais quoi, tu vas aller sur Google Avis et tu vas dire Claire's de la galerie d'Auchan,
est absolument
incroyable, génial.
Bah non, évidemment que non.
Enfin, j'ai autre chose à faire. Donc j'ai dit oui et je l'ai pas fait.
Puis ils sont tous pareils.
Bah oui.
Comment ça pourrait être particulièrement stylé?
Bon, attends, recentrons parce que là on a parlé de mode. Donc quand t'as démarré, t'as parlé de mode. Et après, au fur et à mesure, t'as évolué et là c'est plus. Tu parles beaucoup plus, en tout cas pour quand on scrolle un peu sur ta chaîne YouTube. C'est plus des sujets intimes,
divers
et
variés.
Ouais, ou très intimes aussi sur l'anxiété, tes rapports.
J'adore parler de ma vie.
Pour toi, c'est ton journal intime, en fait.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je dis souvent que les gens, ils ont l'impression que je raconte toute ma vie sur Internet. En vrai, ils ont peut-être 10% de ma vie. Ouais. Parce que, par exemple, je ne montre pas ma famille, je ne montre pas mes amis. Genre, les gens doivent penser que je suis tout le temps chez moi et seule. Non, j'ai aussi une vie à part entière. Mais comme je protège beaucoup, en fait, ma vie privée, en vrai de vrai, je monte pas tant que ça. Bon, évidemment, je vais te raconter comment j'ai eu une mycose. Par contre, tu sauras jamais comment s'appelle
avec
mon père,
qui,
tu vois. Donc c'est ça qui est un peu spécial, c'est que je dévoile beaucoup, mais en fait, il faut que ça ait du sens. Genre, je dévoile des choses parce que je sais qu'il y a un sens à ce que je vais dire.
Oui, que ça va parler aux gens et que ça
voilà, c'est ça. Et tu vois, récemment, j'ai fait une vidéo sur le fait de plus avoir honte d'aller faire caca. Genre, c'est hyper.
Tu veux dire
hyper intime. Ouais, tu vois, d'être avec quelqu'un et tu sais, genre se retenir, d'avoir mal au ventre et de serrer les fesses là et d'avoir le ventre qui gargouille et t'es là, genre au secours, je vais exploser. Genre, moi, ça, c'est un truc, genre, je veux plus vivre dans un monde où les gens ils ont honte d'aller faire caca. Je veux vivre dans un monde où les gens ils disent je vais faire caca. Et je suis en mode ouais, super. Tu vois, c'est super intime en soi de se dire ouais, je vais faire caca, parler de caca.
C'est complètement universel.
Voilà, exactement. Mais il y a une expression qui dit parler de soi, c'est parler pour tous. Je sais plus c'est quoi l'expression de qui de quoi.
Même l'intime et politique.
Voilà, toutes ces choses, toutes ces phrases. Ouais. Ben voilà, du coup, je raconte beaucoup ma vie, mais je choisis les sujets pour que ça ait du sens, pour que, en gros, les gens ils disent ah, ben ça me parle, ah, ça me fait du bien que quelqu'un en parle sur Internet. Moi, souvent, le commentaire qui revient souvent, c'est ah, mais merci d'avoir parlé ça sur Internet. Genre, trop contente que t'en parles et tout, parce que moi, j'avais trop honte et je suis en mode. Et moi, je dis souvent aux gens, si je le fais sur Internet, vous pouvez le faire dans votre vie. C'est ce que je disais pour les poils. Je disais, ouais, si moi, je peux montrer mes poils sur Internet, je pense que vous pouvez aller une fois à la plage avec vos poils. Si je suis pas morte alors que vraiment, je montre mes poils sur Internet, je pense que vous allez survivre.
Et c'est là où je vois qu'on avance et en même temps, pas non plus
temps parce que c'est encore genre waouh, vous faites un truc de ouf, ouais, de montrer des poils, de montrer un bouton, de dire qu'on va pas très bien.
Ouais.
C'est encore, tant mieux dans la mesure où je pense qu'il faut continuer à le faire justement pour dédramatiser, détabouifier, mais ça veut encore dire qu'on est encore dans l'idée que c'est un tabou potentiel, c'est un truc de ouf, que c'est courageux c'est de le faire et tout. Enfin, tu vois, on est...
Mais parce que c'est encore, je crois que c'est encore courageux de le faire, bah, c'est ça en fait.
Oui, c'est ça. On est sur un entre-deux de c'est encore courageux de le faire, mais ça devient un peu banal d'en parler, ça y est. Mm. Mais du coup, on est pile sur un middle de c'est en train de bouger, c'est en train d'évoluer, mais on n'est pas encore tout à fait prêt.
Ouais.
Je sais pas, j'ai l'impression que même sur un peu tout, on est vraiment dans une période charnière de du juste milieu. C'est pour ça que nous, on a vraiment, nous, grosse radicale, là, on a vraiment l'impression que ça avance pas assez vite, alors que pour d'autres, c'est vraiment.
Wow, ah oui, putain, oui, ça avance.
Ouais, il y a des trucs qu'on pouvait pas dire il y a 10 ans. Ah, mais. Enfin, c'est marrant. Dire ça. Il y a 10 ans, maintenant, on les dit plus. Mm. Du coup, on est sur un fil. Moi, j'ai vite envie qu'on aille au bout du fil, là, parce que ça me.
Mais moi,
ça me tend, le juste milieu, mais je pense que c'est bien quand même.
Mais je pense aussi que. Moi, j'ai le sentiment que ça avance super vite. Je sais pas à qui j'en parlais récemment, mais moi, j'ai sincèrement l'impression, là, que même en 2 ans, on fait des bonds de fou. Mmh. Ouais, mais vraiment, je vois le truc arriver. Je vois j'ai un petit frère, par exemple. Il y a une association féministe dans son école. Bon, ils sont pas beaucoup à y aller, mais moi j'avais pas d'association féministe dans mon école.
Mais est-ce qu'on savait pas même du tout, on disait pas le mot féministe,
tu vois. Non, mais vraiment, moi je les vois les bons, vraiment, des accélérations. Enfin, moi, d'une année à l'autre, il y a des sujets qui sont enfin genre, moi des fois, rien que sur TikTok, je vois des gens, ils sont super jeunes et ils abordent des sujets, ils ont genre 17 ans, ils ont le savoir que j'aurais même pas, je crois. Ils m'apprennent des trucs. Moi, je vois des TikTokers, des TikTokeuses, ils sont là, ils font des trucs super vulgarisés, avec ils font des vues incroyables, plein de commentaires, ils sont super suivis. Et je me dis, mais attends, mais là, ils apprennent des trucs à des plus jeunes qu'eux, des trucs que même moi, j'ai pas encore tout saisi. Non, franchement, la génération. Après, ils ont pas le choix aussi, j'ai l'impression, d'avancer super vite. Mais moi, je les vois ici. Et c'est tout droit, hein. Ça va trop vite. Hein. Moi, je suis super impressionnée.
De toute façon, si le backlash est aussi fort, c'est qu'il y a. Ouais. Enfin, en fait, si ça tire aussi fort à chaque fois, c'est ce que je dis, si ça tire fort d'un côté, c'est que ça tire fort de l'autre. Et à un moment, s'il y a des gens qui se battent aussi fort pour qu'on n'évolue pas ou pas aussi vite qu'on le voudrait, c'est qu'en fait, c'est en train de bouger. Quoi.
Ouais. Oui, c'est exactement ça. Je suis complètement d'accord avec ça. Voilà. On avance.
Voilà, on est d'accord, on est d'accord.
Hein. On prêche des convaincus, c'est bien.
Ouais, c'est clair.
On va passer aux petites questions, si tu veux bien, au bol à questions.
Alors, ok, let's go. Il y a un vrai bol ou pas ?
Il y a pas de bol.
Il y a pas de bol.
Il y a le téléphone à questions. En fait, ok, tout simplement.
Super.
T'as pas de bol parce qu'il y a pas de bol.
C'est quoi ça ?
J'ai fait un four, comme on dit.
Toujours laisser passer un petit moment de silence.
Là, je vais le laisser au montage.
Mais non, tu veux pas l'allonger au montage ?
T'es bâtarde !
Alors, tombe à la question.
Alors, est-ce que tu veux une question chill ou une question deep ?
Oh, j'ai bien deep pour voir.
Oh. Est-ce que tu arrives à déconstruire l'amour ?
Oh my god.
On sait pas si elle est ravie.
Ah, j'aime beaucoup cette question.
Interloquée.
Excellente question.
Donc on entend pas par là l'amour, le couple, le mariage, nanani, nanana.
Oh, oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. Alors bon, du coup, on va revenir sur mon orientation sexuelle. Sorry. Mm-hmm. Alors, comme effectivement dans ma vie, j'ai eu le bonheur de fréquenter et des femmes et des hommes. Et donc j'ai le comparatif. Le comparatif est
alarmant. Qui est meilleur, les femmes.
Les femmes. Ah non, mais bien sûr, mais ça c'est fait. Alors après, faut pas faire genre qu'il y a pas de problème entre les femmes, parce qu'il y a sacrées histoires et des sacrés dramas et aussi des violences entre femmes.
Oui, je lis beaucoup. C'est toi qui as fait un post là-dessus il y a pas longtemps où t'en as parlé. Ouais.
J'ai fait
je le vois beaucoup sur des comptes
le drama
de meufs lesbiennes.
C'est ça. Parce qu'on souffre, hein. Et en plus c'est souvent parce qu'on est traumatisé par des hommes. Donc c'est vraiment génial. Genre moi je sais que les issues que j'ai avec les femmes, en fait, elles sont complètement liées aux hommes. Genre c'est trop bizarre parce qu'on sait que c'est pas le même genre, mais en fait si, on le projette quand même dessus. Genre moi je sais que toutes mes issues que je projette sur des meufs, ben en fait c'est vraiment des trucs que des mecs m'ont mis dans la tête, mais vraiment vraiment. Et du coup on est là genre, enfin c'est toute une histoire.
Des trucs de couple, tu veux dire ?
Ouais, des trucs de couple, de relations amoureuses, de couple, ouais complètement. Genre moi je sais que j'ai des issues, par exemple, je m'excuse vachement d'exister. Souvent je suis là genre pardon, ça te dérange pas ? Pardon, ça te dérange pas ? Et en fait c'est pas que j'ai dérangé, c'est qu'en fait on a tellement empiété sur mon espace, on s'est tellement permis de choses avec mon corps, dans ma vie, dans mon espace, que maintenant j'ai tellement peur de le faire aux femmes que Mais je le ressens, en fait.
Que tu prends beaucoup... 10 millions de pincettes de
ouais,
plus que ce que
10 millions de pincettes, mais vraiment, vraiment, c'est tout un truc où genre vraiment, t'es là step by step, t'as peur de la brusquer, t'es toujours en train de te demander mais est-ce qu'elle se force pas, est-ce que dans 3 semaines elle va pas regretter en fait, et en fait elle était pas vraiment d'accord mais elle a dit oui parce qu'en fait...
T'aurais peur d'être l'homme en fait.
Exactement. Mais en fait, comme on est deux femmes à avoir peur d'être l'homme, et bah du coup on se regarde vraiment en mode, est-ce que je vais pas t'agresser là en te disant que tu es belle ? Et donc du coup on est là à prendre des pincettes de fou, mais vraiment c'est un... Bon là j'exagère un peu le trait. J'exagère un peu le trait parce que voilà, pour imager.
Tout n'est pas que ça.
Non, voilà, c'est ça. Puis après, quand le truc de confiance il s'installe, heureusement, on s'arrange, tu vois. Mais ouais, les questions d'amour, de relations, de couple, oh là là, putain, en plus, c'est large comme question parce qu'il y a plein d'angles à prendre. Donc, je sais pas par quel angle vous voulez que j'aille, mais.
Bah, je sais pas, par exemple, ta définition actuelle du couple, ou alors est-ce qu'elle aurait évolué?
Non, mais parce que
je reformule un peu la question.
Non, mais parce que c'est des questions que je me pose sincèrement dans ma vie. Alors, faut savoir que moi, déjà. Comment dire, moi je relationne dans la vie, mais ça fait très longtemps que j'ai pas été en couple, dans le sens on est en couple, tu es mon couple et on se projette
on
à deux
ensemble.
Vraiment bah on sort ensemble oui mais genre le couple, en fait moi quand j'entends couple j'entends vraiment c'est toi et moi à deux et on se projette dans la vie et on va passer des
alors
étapes.
Qu'on sort ensemble si on se fréquente.
Voilà, et on ne met pas trop de d'étapes. En mode, on n'est pas obligé de rencontrer nos parents, puis d'emménager ensemble, puis d'avoir un chien, puis de se marier.
Bah donc,
puis...
tu as complètement déconstruit, du coup, la vie. Enfin, c'est ça, un peu, je pense. Je
oui.
Le côté déconstruction.
Mais
c'est...
en fait, j'en rêve encore un peu. Ouais, en fait, c'est un peu ça qui est spécial. Okay. C'est que je... En fait, c'est vraiment des problématiques de traumatisme qui m'ont coincée dans le fait que j'arrive plus à me projeter dans les étapes. C'est vraiment pas en mode j'ai toujours été comme ça. Moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que j'allais pas forcément me marier. Le mariage, j'y croyais pas. Mais je voulais des enfants. Puis je croyais que j'allais trouver ma personne et puis qu'on allait rester ensemble toute la vie. Et puis la personne sur qui j'ai projeté ses rêves s'est avérée être pas super, super sympa. Et du coup, en fait, quand j'ai
quitté... Ce serait trop facile, la vie, sinon.
Quand j'ai quitté cette personne, c'est un garçon, je précise, m'a harcelée pendant 4 mois. Et en fait, comme il m'a harcelé pendant 4 mois, je me suis vraiment dit, mais en fait, quand on quitte une personne, on peut même pas vraiment sortir de ces histoires vraiment comme on veut. Et après ça, j'ai plus su me mettre en couple.
Ah oui, tu m'étonnes.
Voilà. Et donc, même avec des meufs, j'ai du mal. Genre, il y a vraiment des trucs où, genre, dès que je me sens trop en couple, j'ai un moment où mon corps panique. Je suis en mode, oh non, je vais me retrouver dans la situation d'il y a 6 ans.
Partir,
et c'était il y a longtemps. Hein. Donc, il y a 6 ans quand même. Donc, quand même, entre-temps, j'ai le temps de me soigner quand même, quoi. Mais là, ça me revient. Là, je suis de nouveau dans cette dynamique de. Si, je crois que je me vois bien. Après, je pense que ça dépend aussi des personnes qu'on rencontre. Genre, là, tu rencontres une personne et cette personne, tu te vois avec. Donc, du coup, d'un coup, tu commences à réactiver ton processus d'amour et te dire « Ah, mais peut-être qu'avec cette personne, je pourrais faire ça. Ah, peut-être qu'en fait, je me vois bien faire ça. » Et là, tu rallumes ta machine.
Oui,
mais moi, ça m'a pris du temps.
Oui, mais du coup, c'est pas une obligation. Enfin, c'est-à-dire, c'est
oui,
pas...
c'est ça.
C'est genre un peu, évidemment, si à un moment, tu trouves une personne avec qui tu as envie de le faire, mais... Je sais pas, tu crois qu'il y a des gens qui le questionnent pas du tout parce qu'on l'a posé en question comme si il y a vraiment des gens aujourd'hui qui se questionnent pas du tout sur leur rapport amoureux, enfin en se disant l'amour c'est on rencontre quelqu'un, on fait toute notre vie ensemble, on se pose pas plus de questions que ça.
Non mais si, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui le questionnent et c'est très bien, c'est plus dans l'application. Enfin moi par exemple je sais que je le questionne pas mal et j'adore écouter des podcasts sur ça, par exemple Le Cœur sur la Table qui déconstruit pas mal les relations amoureuses, la BD de Liv Stromquist, Les Sentiments du Prince Charles qui parle beaucoup du couple, de la fidélité, de ce qu'on nous a inculqué, ouais vraiment la notion de fidélité, jalousie qui n'existe pas ou peu en amitié.
Ouais,
genre, c'est que des trucs qui sont archi intéressants. Je trouve ça trop cool, mais je suis incapable de l'appliquer. Genre,
mais après, je pense qu'il faut pas. Après, je pense qu'il faut pas créer
des
nouvelles injonctions.
De se dire, oui, voilà. Oui, exactement. Parce que j'ai l'impression que ça pourrait tourner vers une nouvelle injonction de ouais, le couple, le mariage,
pas,
les enfants, le chien, tout ça. Alors que s'il y en a qui kiffent trop
mais
c'est
oui,
quand même
oui,
cool. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'on rend aussi un peu stylé dans le polyamour, les relations libres.
Mais c'est pas. Pour
alors que je pense
monde,
qu'il y a des problématiques.
Ouais. Alors déjà, je pense qu'il faut arrêter de faire croire aux gens que le polyamour c'est facile.
Ouais.
Parce qu'en réalité, moi, c'est un truc que je voyais les gens polyamoureux, je les voyais trop en mode genre waouh, ils sont pas jaloux. Ils sont jaloux.
Ouais.
Hein. Et en fait, le polyamour, c'est une manière de construire des relations. Mais en fait, ça demande 3 fois plus de travail. En fait, c'est un leurre et souvent, les gens se font n'importe quoi quand ils commencent le polyamour parce qu'ils se disent juste c'est en moi, Je vais juste faire ma vie et puis avoir plein de relations, etc. Non, ça demande deux fois plus de communication.
Beaucoup d'organisation. Oui.
Beaucoup d'organisation, deux fois plus
ça
de...
Ça implique deux fois plus, trois fois, plus, quatre fois plus de monde.
Plus d'empathie, ouais. Plus de compréhension, plus de discussion. C'est vraiment, c'est challengeant. Et en fait, il y a plein de gens qui se savent polyamoureux, mais qui vont quand même se mettre en couple monogame parce qu'en fait, ils savent ce que ça implique. Oui. Et le temps, il faut avoir le temps, il faut avoir l'argent. Parce que tu vas pas faire 15 000 dates, ouais. Là, c'est mignon. Ouais.
Et la compréhension des gens.
La compréhension. Et en fait, souvent, ouais. Les gens, ouais, ils se leurrent en se disant « Ah, polyamour, c'est facile. Ouais. » Non, polyamour, c'est si vous gérez pas une personne, vous n'en gérez pas deux. Ouais. Déjà, arriver à construire une relation saine avec une personne et ensuite, vous pouvez ouvrir votre relation. Souvent, c'est plutôt comme ça que ça se passe.
Ouais.
Parce que juste partir du... Après, sinon, t'es juste célibataire. Et t'as des plans par-ci par-là. Mais polyamour dans le sens,
oui.
T'es amoureux de plusieurs personnes et tu dois combler plusieurs personnes et être comblé, Là, c'est...
Ah oui, polyamour, c'est vraiment des vraies relations. C'est pas le relation libre où juste t'as ta meuf ou ton mec et tu peux baiser à droite à gauche à volonté. Là, c'est vraiment, c'est de la
volonté.
Relation. J'ai vraiment vu un buffet à volonté.
Ouais. J'ai un peu faim, moi, en plus.
Mais juste par rapport à ce que vous disiez sur le fait qu'il faudrait pas que ça redevienne une nouvelle injonction, je vois ce que vous voulez dire, mais je me demande si c'est pas plus... parce que ça peut être pas mal amené par les féministes parce que très souvent dans les relations, la personne qui en pâtit, en tout cas dans les relations hétéro homme-femme, c'est la femme. C'est-à-dire que la personne qui a beaucoup à perdre, c'est la femme, que ce soit pendant la relation ou après, si la relation se termine en cas de divorce, en cas de...
Ou s'il y a des enfants, s'il y a mariage.
Voilà.
Quelle que soit la...
Très souvent, la personne qui a à perdre, c'est la femme. Et du coup, je pense qu'il y a peut-être juste cette volonté. Je suis d'accord qu'il ne faut pas que ça devienne une injonction et qu'il y a des gens qui ont un énorme plaisir et qui sont extrêmement satisfaits, des femmes très satisfaites d'être en couple à la maison, même gérer un peu la charge mentale. Il y en a peut-être qui ne le vivent pas si mal, j'en sais rien.
Ouais.
Mais je pense qu'il y a vraiment cette volonté aussi de dire que quand on se retrouve dans ce modèle-là, je ne sais pas si, si on l'a forcément choisi ou conscientisé.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Peut-être que c'est juste qu'on a grandi en nous disant, nous en tant que femmes, il fallait se caser, il fallait faire des enfants, il fallait s'occuper de sa maison. Et donc l'injonction serait pas forcément à dire t'as pas le droit d'aimer ça, mais serait plus de dire si t'aimes, est-ce que vraiment t'aimes ça, t'aimes ça, est-ce que t'es sûre d'aimer ça, comme on disait, comme nous on dit souvent par exemple les mecs qui disent j'aime pas les poils mais c'est une question de goût. Non, c'est en vrai, il y a très peu de chances que ce soit un goût, c'est la société qui t'a conditionné à trouver que c'était dégueulasse.
C'est comme pour la musique, on peut faire ça avec tout, même avec des trucs pas du tout politiques, genre même la musique, si tu prends une personne selon ses origines sociales, ses origines raciales, son âge, etc., t'as l'impression que tu choisis, mais c'est pas vraiment vrai en fait.
On te conditionne de manière générale. Et donc, je pense qu'il y a plus cette volonté de dire, est-ce que tu as questionné, est-ce que c'est... Après, moi, je n'ai pas la réponse, parce que je trouve ça, du coup, trop dur. Moi, je suis dans le cas où je ne sais pas comment je fais pour savoir ce que j'ai envie, du coup. Parce qu'en fait, entre ce que je questionne, ce que je ne veux pas reproduire comme schéma, et en même temps, quand même, l'envie de se caser. Hein. Enfin, tu vois, l'impression que c'est quand même ça, la fin du game, la finalité.
Moi, je pense que j'ai la réponse, si tu veux. Je pense que, en fait, vu que chaque relation, elle est différente, je pense qu'il ne faut juste pas se choisir un cran. Genre, il ne faut pas se dire, alors moi, je suis monogame, je veux me marier et je veux faire ça. Je pense que...
Se qualifier.
C'est comme il y a des gens, ils vont être persuadés d'être, je sais pas moi, hétéro toute leur vie et à 50 ans, ils vont être attirés par une femme. Et tu vas pas te dire, ah mais non, j'avais dit que j'étais hétéro. Bah non, là, il s'avère qu'à ce moment-là, c'est une femme qui t'intéresse, vas-y. Et je pense que c'est pareil, tu peux avoir envie de mariage toute ta vie et si à 40 ans, t'es en mode, bah en fait, c'est pas mon truc, bah change. Je pense que c'est vraiment la fluidité qu'il faut garder en tête au final.
Mais dans ce sens-là, à la rigueur, mais c'est dans l'autre, je trouve ça plus dur de dire. Je déconstruis, mais au fond de moi, il y a toujours une partie qui se dit, mais si je me suis pas mariée à tel âge ou que j'ai pas d'enfant, j'ai quand même peut-être raté un truc parce que c'est un schéma.
Parce que c'est trop ancré, qu'on a tellement vu. C'est trop ancré en nous, on a trop grandi avec ce truc, c'est très très dur, nous, là, notre période à nous, là, trentenaire, de déconstruire.
Vous savez si c'est un choix. Après, à la fin, t'es heureuse ou t'es pas heureuse.
C'est ça, en fait, à la fin, qu'il faut savoir. Est-ce que t'es heureux ou t'es pas heureux et comment tu peux dealer avec tout ça. Mais c'est. C'est très très dur.
Je pense que ça dépend aussi du schéma familial dans lequel t'as grandi. Genre, moi, j'ai un schéma familial un peu spécial parce que mes parents, ils sont séparés, j'avais 4 ans, donc je les ai jamais vus ensemble. Pour moi, mes parents, c'est vraiment des amis. Genre, c'est des potes. C'est je, cool. je les vois jamais même dans la même pièce. Enfin, c'est super rare. Donc, pour moi, c'est vraiment genre, il y a mon père, il y a ma mère, c'est deux personnes différentes. Et c'est mon père, en fait, qui a géré l'éducation. C'est mon père qui a arrêté de travailler pour le congé parental, quoi. En gros, il a cessé de travailler pour s'occuper de nous jusqu'à l'entrée à l'école. Donc, du coup, moi, j'ai vraiment un truc comme ça à l'envers. J'ai tout à l'envers. Mes parents, ils sont séparés très tôt. C'est mon père qui faisait l'éducation à la maison. Moi, j'ai grandi à partir de mes 12 ans. Je vivais que chez mon père. Avant, j'avais la garde alternée. Après, j'ai grandi que chez mon père. Donc, moi, chez moi, le parent.
T'es un modèle pas
ouais, moi, le parent qui porte la charge mentale, c'est mon père.
Ouais.
Vraiment, celui qui est tout le temps derrière toi, qui vient te chercher, qui prend ton sac, qui pense à l'avance à toi, qui fait des papiers, qui te fait tes trucs et tout. Moi, c'est vraiment, c'est mon père. C'est... Enfin, le rôle de la mère, c'est mon père. Et ça a toujours étonné les gens à l'école. Et je me disais, mais tu vis chez ton père? Et je disais, bah ouais. Bah pourquoi? Pourquoi faire? Je sais pas, je sais pas, j'ai envie, j'aime bien. J'ai mon père, on est trop bien, quoi. Donc c'est ça. Et je pense que du coup, moi, j'ai eu cette chance, entre guillemets, quand t'as, on va dire, t'as
quand
vécu,
tu vois d'autres modèles.
Voilà, du coup, en fait, tu sais que quand tu t'intéresses, par exemple, au modèle inverse, tu le fais pas par mimétisme de tes parents, peut-être par d'autres mimétismes, mais tu sais que c'est pas tes parents qui te l'ont donné, tu vois. Alors je sais qu'il y a plein de gens, ils sont en mode, moi je veux la même relation que mes parents, ils ont eu, je veux vraiment la même chose. Moi je veux pas me souhaiter la même chose. Bah du coup voilà, ça laisse
oui, tu sais que ça peut marcher, on peut grandir dans des schémas de famille
différents. Ah ouais, complètement.
Et ça aujourd'hui, je pense qu'on a quand même le côté famille recomposée, mais
le nombre de mères
célibataires
aussi. Le côté
famille recomposée passe toujours quand même par mariage, divorce et éventuellement nouvelle compagnon ou tu vois, c'est pas non plus des modèles d'amis.
Oui, nous on n'a pas enfants, on a ouais exactement, on a absolument pas grandi nous là à notre époque avec des enfants de parents homosexuels, des enfants de parents amis, enfin des familles
les mères célibataires, c'est parce que les pères s'étaient barrés.
Oui, complètement.
J'ai un exemple d'une amie. Sa tante était lesbienne et elle avait fait un enfant avec son meilleur pote, je crois. Un truc comme ça. Enfin,
mais c'est pas mal.
Autant vous dire,
pour l'époque,
moi, c'était.
Bah oui, c'était choquant.
Ah ouais, ok.
Quoi, c'était improbable. Improbable.
Ouais. Ah, c'est improbable.
Bah oui, non, mais évidemment. Donc nous, on est sur un truc où c'est. Même si on donne toute notre trace à tout déconstruire et qu'on y met de la bonne volonté, c'est chaud parce que c'est très ancré, quoi. Vraiment, je vous recommande vivement la BD de Liv Stromquist, Les Sentiments du Prince Charles. Moi, elle m'a mis une claque. Vraiment, je lisais les trucs et en plus, c'est hyper vulgarisé. C'est dessiné avec des dessins un peu grossiers et tout, et c'est très drôle. Et franchement, quand tu le lis, t'es là. Mais
l'invention de la
jalousie,
quoi.
Mais ça va pas la tête d'être jaloux, d'être fidèle, d'être genre tu seras à moi. Genre, mais c'est trop bizarre qu'on fasse ça. Ça va pas ou quoi? Et d'un autre côté,
évidemment que je le fais,
mais
100%,
et je ne me vois pas faire autrement. Ouais. Mais je pense qu'il faut l'accepter, ça. Je pense que vraiment, c'est pas grave. Hein.
C'est pour ça que quand on dit est-ce que t'as déconstruit ton rapport à l'amour, ça veut pas dire est-ce que toi tu fais.
Tout le contraire de ce qu'on attend.
Complètement des schémas. Ouais.
Ah non, moi
ça
je
veut
crois
juste dire
pas,
est-ce que tu l'as questionné. Et moi, je trouve qu'au moins, on peut en arriver juste à ce truc-là,
oui,
de dire je l'ai un peu questionné, j'ai conscience de mon rôle, j'ai conscience des schémas que je reproduis parce que la société les attend de moi. Mais en même temps, en vrai, ça me rend plutôt heureuse.
Oui, c'est plus ça à la fin. Quoi.
Je me laisse la chance de rencontrer quelqu'un de tel genre, dans tel contexte, d'ouvrir un peu des portes. Quoi. Après.
Bah ouais, moi je sais pas. Franchement, je suis vraiment dans ce truc où, comme je te dis, comme j'ai grandi dans un schéma familial spécial, très jeune en fait, j'ai été obligée de me poser la question, de me dire ouais, moi qu'est-ce que j'aime, comment je me vois et comment je m'imagine. J'ai expérimenté ce truc-là, ça m'a pas plu, le truc du schéma classique de je trouve l'amour de ma vie et je force la relation jusqu'à ce que il faut qu'on souffre, est-ce vraiment qu'on s'aime, c'est le plus important, et après on se court. Ça j'aime pas. Donc
pas fan.
Ouais, voilà, ça, mais après voilà, je suis vraiment un truc changeant, genre si ça doit changer, ça changera.
Mais pourquoi tout le monde fait pas ça?
Un truc changeant, parce que c'est pas rassurant, je pense. Je pense que les gens reproduisent des schémas parce que c'est sécurisant.
Mais non, mais juste, si par exemple tu te disais dans ma vie, j'ai pas besoin de savoir si je vais tomber amoureux d'un homme ou d'une femme, j'ai pas tellement besoin de le définir.
Bon, après je suis un peu une mytho, parce qu'en vrai de vrai, genre par exemple moi les hommes je les esquive un peu. On va pas se mentir. Non, mais parce que je dis je dis oui, non, moi je
bisexuel, mais
oui, mais en fait parce que la bisexualité c'est en mode tu es attiré par tous les genres en gros, mais en fait, on prend les questions de genre dans nos attirances. On va pas faire genre que c'est pareil.
Oui,
non,
oui.
C'est pas pareil. Moi, je sais que par exemple, tu vois, quand je mets des applications de dating, je mets pas les garçons.
Oui.
Genre, je les active pas. J'ai la flemme. J'ai pas envie.
C'est pas un endroit où t'as envie de les femmes. Et éventuellement. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte d'arriver parce que il y a beaucoup de gens qui
des vieux un peu qui disent maintenant tous les jeunes ils sont bisexuels, pansexuels, on sait plus quoi. Bah en fait, vous savez quoi ?
Oui, c'est tant mieux.
Bah, oui, parce que si on est tous et toutes pansexuels, c'est-à-dire on aime des gens avant d'aimer un genre, bah il y a plus d'homophobie.
Je pense
qu'un monde sans homophobie, il me semble, je peux me tromper, hein, que ce serait mieux.
Ça serait un peu fun.
On parle quand même d'un truc illégal puni par la loi, au moins chez nous. Hein. Donc j'ai l'impression que je vois pas le problème. Donc vraiment, s'il y a des gens qui peuvent tenir ce discours, parce que j'ai même entendu, j'ai dit des vieux, mais j'ai entendu des gens de mon âge qui ont déjà dit ça. Pas de manière ultra méchante, mais ouais, maintenant au lycée, il y a ma nièce, oh, bah, ils sont tous bisexuels. Et alors ?
Oui, tant mieux.
Et alors ?
Ouais.
Et alors ? Les gens veulent plus se caser, veulent plus faire des gosses. Mais en fait.
Oui,
et alors ?
Ouais, grave, et en plus, c'est même pas vrai.
Il y a encore plein de gens qui font des enfants, vous inquiétez pas.
Mais oui,
il y a plein de gens qui se marient et qui font des enfants et qui divorcent et que les enfants sont malheureux. Enfin,
on va le refaire en boucle, ça vous en faites pas, c'est que le début. On en aura encore sur un temps. Jusqu'à ce qu'on meure, je pense qu'on verra ce schéma se reproduire à vie.
Tu veux faire une autre question ?
Vas-y, je veux bien.
Deep ou chill ?
Bah Jeep, vas-y, moi j'aime bien.
Aimes-tu dépasser tes limites ?
C'est large. Mais je suis chez la psy ou qu'est-ce qui se passe ? Parce que moi j'ai 3 ans de thérapie dans la tête, alors ça peut être très...
J'en ai 7 alors.
J'en ai 10, taisez-vous.
Oh là là !
On a fait qui est la plus grosse ?
Ouais, grave. Je suis une enfant en fait, je suis un bébé thérapie.
En même temps, t'as 26,
qui est la plus grosse ?
Qui est la plus grosse ?
Bah t'as gagné, bien joué.
T'as le plus gros zizi.
Félicitations.
Ouais.
Donc du coup la question c'était quoi ?
La question c'est est-ce que tu aimes dépasser tes limites ? De manière générale, ça peut être tes peurs, l'inconnu, tout ça.
Alors écoute, récemment j'ai vu un super TikTok qui parlait du fait que la zone de confort, de dépasser sa zone de confort, en fait c'était pas vraiment top. Alors je m'explique. Qu'en gros, on a un peu ce truc de il faut qu'on dépasse nos limites, faut qu'on aille toujours plus loin, plus vite, faut qu'on quitte notre job et puis que du jour au lendemain on prenne un van et puis qu'on s'envole loin de la société. Enfin, il y a toujours un peu cette compétition de surtout sur les réseaux de très entrepreneur, moi je suis
j'ai tout quitté du jour au lendemain.
Voilà. Et ben en fait, j'ai vu un super TikTok récemment qui disait qu'en fait l'idéal, c'était pas de sortir de sa zone de confort, mais de l'élargir. Et que ça se crée au fil du temps. C'est-à-dire que, par exemple, si, je sais pas, j'aime pas trop les fruits, bah plutôt que de dire, un jour, je vais prendre un plateau de fruits et tous les manger d'un coup, et ben en fait, ça serait plus judicieux de dire, tiens, quel fruit me dégoûte le moins ? Ah, je vais peut-être le sentir d'abord. Ah, puis après, quand je l'aurai senti, je vais peut-être le toucher. Ah, puis quand je l'aurai touché, j'ai pris les fruits, je sais pas pourquoi. Hein.
Non, mais la métaphore est bonne.
Très bonne image.
Et en fait, à la fin, t'auras élargi. Beaucoup plus sainement ta zone
sans
de confort.
Vivre un moment horrible de
frustration.
Exactement. Et ma psy elle me l'avait dit, elle est pas pour ce truc de il faut sortir ta zone. Non, en fait si
oui,
t'es,
mais
si
la
t'es...
question c'est pas ça.
Oui, mais c'est les la limites question, pour c'est... moi c'est pas loin.
C'est pas qu'est-ce que tu penses de dépasser ces limites ?
Ah,
c'est
qu'est-ce que je
toi
pense.
T'aimes bien te mettre dans une situation. Enfin, pardon, c'est hyper intéressant ce que tu as dit et
oui.
Je suis d'accord.
Oui,
mais je veux dire est-ce que en sachant ça, est-ce que toi quand même t'es du genre à aller te mettre tu vois.
Alors, je sais pas. En fait, je pense plutôt que mes limites, elles sont plus larges que beaucoup de gens. C'est-à-dire que, par exemple, quand je dis que moi, j'aime pas trop sortir de ma zone de confort, les gens, ils me disent, t'es créatrice de contenu. Un mois sur deux, tu sais pas ce que tu vas bouffer.
Oui,
tu crées des projets toutes les 3 semaines. T'as un nouveau sujet, une nouvelle idée à faire tous les mois. Tu mets ta tête sur Internet. T'as aucune limite, meuf. En soirée, t'es la première à danser et à crier fort et à chanter. Les limites, ce que t'appelles moi j'aime pas dépasser mes limites, c'est pour des gens c'est oh mon Dieu, c'est le défi d'une vie.
Ouais.
Donc je pense que moi c'est pas tant que j'aime dépasser mes limites, mais que plutôt j'ai une très large
tolérance.
Ouais, c'est ça en fait. Et je pense que ça vient vraiment du fait que très jeune, j'ai été hyper stressée. Moi quand j'étais petite, j'étais vraiment un enfant angoissé, sur les nerfs tout le temps, tout le temps stressé. Et du coup, je me privais de beaucoup de choses quand j'étais petite. Par exemple, j'aimais pas aller au centre de loisirs parce que ça me stressait trop. Je prends un accent. Trop. Il y a plein de choses que je m'empêchais de faire parce que j'étais trop stressée. Et du coup, en fait, je compensais. En gros, avec tous les trucs sur lesquels j'avais des facilités, je compensais. Par exemple, j'aimais trop faire l'imbécile. Genre, j'aimais trop divertir les gens. Et vu que j'étais super stressée sur d'autres trucs, du coup, j'allais grave en rajouter sur d'autres trucs. J'étais pas très forte sur un truc. À l'école, j'allais tout donner sur telle matière. En maths, j'étais trop nulle. Du coup, en français, je compensais. En fait, très jeune, je compensais. Du coup, en grandissant, je crois que c'est un peu ça. Comme je suis sur plein de choses, ça va être difficile pour moi. Bah, typiquement, l'ouverture émotionnelle, pour moi, c'est quelque chose de difficile. Bah, par exemple, sur la créativité et le travail, je vais être imbattable.
Complètement libre.
Voilà. Et donc, en fait, moi, c'est toujours un peu comme ça. C'est un peu une balance de... pour certains trucs, moi je suis retenue sur des trucs, les gens ils vont se dire mais comment tu te retiens sur ça, c'est facile. Et des trucs, les gens ils me regardent et ils vont se dire mais toi tu montes sur scène et tu parles pendant une heure à des gens que tu connais pas et tu fais
des
blagues.
Oui, mais en fait c'est pas ta limite pour toi ça.
Voilà, c'est ça.
C'est pas ça dépasser. Oui, voilà. Au final ça te donne pas l'impression.
Donc c'est un peu difficile, moi j'ai un peu des fois du mal à évaluer parce que les limites c'est très personnel en fait.
Ouais. Tu vois, j'avoue que je le voyais spontanément, moi je pense plus au côté, je sais pas, faire un saut en parachute, enfin tu vois ce genre de trucs comme ça.
Par exemple, moi je sais pas mettre ma tête sous l'eau. Ouais. Genre c'est un truc, c'est phobique chez moi, depuis que je suis petite je sais pas mettre ma tête sous l'eau. Mettre ma tête sous l'eau pour des gens c'est genre bah, tu mets ta tête sous l'eau, tu...
Par exemple tu te retrouves à Fort Boyard et tu dois sauter dans l'eau pour aller chercher une clé, ça t'excite pas.
Ah mais je n'ai aucune capacité, je ne peux pas faire ça dans ma vie.
Mais je trouve que c'est un peu ça pour moi de dépasser ses limites, c'est savoir les trucs qui te...
Moi par exemple, absolument pas faire.
Moi j'ai aucun plaisir, enfin moi c'est tout ce qui est mes limites, c'est-à-dire effectivement les phobies, ma phobie des de certaines bestioles et tout, ça va pas m'amuser, enfin ou même là bah typiquement j'étais au Pérou il y a pas longtemps avec ma sœur et on devait faire pour aller voir une super belle montagne, faut marcher. Moi j'aime pas le sport, j'aime pas particulièrement les randos, j'aime pas faire des efforts, je suis j'ai pas de condition physique donc c'est de la merde. Mais du coup ça m'amuse pas, c'est à dire que même quand j'arrive en haut et que je l'ai fait, je ne ressens aucunement de ah je l'ai fait, j'ai aucune satisfaction en plus d'avoir dépassé ma limite. Pour moi c'est lié à des trucs inconfortables en gros, un truc
voilà, faire face à l'inconfort, je pense c'est ça, dépasser les
limites.
C'est ça, oui.
Genre quoi?
Bah genre sauter en parachute, genre faire un truc que j'ai moyen envie de faire parce que peut-être ça va me faire bader, je le fais. Genre dormir en camping pendant 3 jours, pour moi c'est dépasser une limite et je vais le faire là cet été encore une fois, mais parce que vas-y, je sais qu'à la fin en vrai, je suis contente, ça prime. J'aime bien, oui, j'aime quand même un peu bien sortir de ma zone de confort. Moins qu'avant, moins que quand j'avais 20 piges et que je faisais un peu genre n'importe quoi. Enfin, même des, c'est genre des road trips en stop pendant 3 semaines avec 3 potes en se douchant 3 fois pendant les 3 semaines.
Oh my god, tu vois, je fais pas par exemple.
Ça, je faisais et je peux plus, mais parce que flemme. Enfin, vraiment, flemme, je kiffe le confort, tout ça.
Ah ouais, moi j'aime trop le confort, moi. Ouais, moi je suis taureau, j'aime trop le confort.
J'aime trop le luxe. Moi aussi, je suis pas trop.
Des trucs un peu compliqués, je peux. Après, je me mets jamais dans une. Je dépasse jamais une limite beaucoup trop inconfortable. Pour
mais
moi,
on est d'accord qu'il y a des gens pour qui c'est un gros kiff, quoi. C'est, ils vivent effectivement. Mais c'est pour ça que ça rejoint ce que tu disais au début. Et je trouve ça bien qu'il y ait ce genre de propos qui tourne du coup sur TikTok ou quoi, de se dire on n'est pas obligé d'être dans cette volonté.
Non,
et moi, ça me fait du bien de me dire ok, j'ai pas forcément besoin de le faire on est souvent sors de ta zone de confort, si t'aimes pas ça fais-le quand même, ça va te faire du bien. Bah moi la vérité c'est que je ressens assez peu ce truc de
si tu sais que les quelques fois où tu l'as fait si tu sais que les quelques fois où tu l'as fait qu'à la fin ça te fait pas du bien, c'est vrai que c'est pas très...
Après parfois on n'a pas le choix, enfin moi j'ai toujours détesté l'inconnu, j'ai toujours été paniquée des trucs où j'allais faire un truc pour la première fois, ça m'excite pas déjà, je ressens pas ça, c'est une autre question peut-être aussi, mais l'excitation de l'inconnu, tu vois, moi je l'ai pas, j'aime bien savoir où je vais, j'aime bien organiser, je suis contrôlée, le fric et tout, donc vraiment.
C'est quoi ton signe astro?
Cancer.
Ah, je connais rien. Ça m'intéresse ce truc de la zone de confort parce que je pense qu'il y a aussi. Moi, je pense à ma mère par exemple qui a une vie hyper compliquée, genre de ses 0 à ses 18 ans, elle a une vie vraiment, je pense que niveau inconfort, mais pas choisie pour le coup, elle a tout atteint dans la vie. Et en fait, du coup, quand je la vois maintenant, elle est très. Elle aime trop être à la maison, elle aime trop regarder Netflix, elle est chill. Et des fois, je me dis, mais elle s'ennuie pas, elle sort pas de sa zone de confort. Et en fait, c'est après, je me dis, mais en fait, en 18 ans, elle a dépassé 99% de la population. Donc en fait, c'est un...
peut-être elle a le droit
en fait pour plein de gens
un peu de répit
pour plein de gens ne pas sortir de sa zone de confort, c'est le goal, c'est arriver à un moment où en fait t'es juste à l'endroit où il y a plus rien qui t'emmerde.
Mais moi comment j'ai hâte,
tu vois,
c'est pour ça que très souvent je dis que j'ai hâte d'être une vieille dame dans
pour
la mesure
le tour.
Pas pour avoir mal au corps parce que je vais être une catastrophe, mais juste parce que comme ça quand je serai chez moi toute la journée à faire des mots fléchés ou du tricot ou que sais-je encore à regarder la télé, personne trouvera ça bizarre, personne dit, ou moi je me dirais pas putain mais je devrais être en train de sortir pour rencontrer des gens parce que j'aurai 80 ans
voilà donc. C'est ça,
tu vois, peut-être j'irai au club de bridge pour voir un peu des gens, mais tu sais,
au club
hâte.
De tricot
mais j'ai hâte que ce soit, enfin c'est
que ce soit justifié,
alors que
gros,
j'ai le droit de
rana...
le faire dès maintenant, en vrai, j'ai le droit déjà de le faire, mais je sais pas, je trouve qu'on n'attend plus après. À un moment, on n'attend plus justement qu'on sorte un peu de nos zones, qu'on bouge, qu'on fasse des...
Ça se rejoint les deux dernières questions. La déconstruction de l'amour et les challenges, en gros, à la fin.
Ouais.
Fais ce qu'il te plaît.
Comme
si toute la vie, c'était mais.
Mais ouais, je pense que c'est ça. Après, je pense que c'est une question aussi du regard des gens. Je pense qu'en vrai, si on passerait plus de temps à apprendre à s'en foutre du regard des gens, on ferait aussi plus ce qu'on veut. Et que ce soit
bien évidemment.
Que ce soit dans « je fais plein de choses » ou dans « je fais rien », En fait, tu ferais juste ce que t'as envie de faire.
Bah oui, il y a des trucs que je fais parfois, des, je sais pas, des petits trucs, mais j'ai pas d'exemple. Je cherche un peu depuis tout à l'heure, à part le saut en parachute, mais il y a des petits trucs que je me fais pour me challenger dans ma vie, pour prouver un peu aux gens que c'est cool, tu vois. Alors qu'en vrai, moi, je m'en branle, genre à la fin, effectivement, de me dire oh, j'ai réussi à le faire, m'en fous un peu. Tu
ouais,
vois.
Ouais, ouais. Ce que tu veux. Que je pour les applaudissements, tu vis pour les caméras.
Ouais, en fait, moi, je vis pour le succès, en fait. Ouais. Et la reconnaissance d'autrui.
Bien sûr, comme beaucoup.
Ah, le regard des gens.
Quand j'ai fait de l'impro avec toi, Camille, tu crois que j'avais envie de le faire
réellement? Non, en fait. Là, t'as dépassé tes limites.
Alors, j'ai dépassé mes limites, mais c'est pas pour autant que les gens m'ont particulièrement applaudi.
Eh ben, on t'applaudit.
Merci beaucoup.
Mais je sais pas si vous voulez boucler la boucle, mais du coup, moi, ça fait partie des sujets que j'aborde sur les réseaux. C'est un des trucs pour lesquels les gens ils me suivent beaucoup. Le côté, mais comment tu fais pour en avoir rien à foutre comme ça, du regard des gens et tout. Et moi, j'ai toujours, mais en fait, mon exemple dans la vie, il va être trop bizarre. Vous voyez, Afida Turner, vraiment ma star.
Elle s'en fout, mais réellement.
En fait, c'est le boss final de j'en ai plus rien à faire.
Ouais.
Cette dame, en fait, elle a même compris que en étant tournée au ridicule, elle vit mieux sa meilleure vie que en étant perçue comme une meuf parfaite et super et tout. Et en fait, c'est en arrivant à son apogée de hey, j'en ai rien à foutre, si je me roule par terre, je me roule par terre, je crie, je crie, je veux chanter, je chante, je veux monter sur la table, je monte sur la table, vous allez faire quoi? C'est en arrivant là que maintenant on l'adore et tout le monde l'aime et tout le monde fait des threads Twitter, des compiles sur TikTok, avec des ralentis et tout ça en mode Afida ma star. Ben, c'est vraiment parce qu'en fait elle arrivait au boss final de ouais, hey, je m'en fous, et au pire en fait détestez-moi, et c'est pareil parce que moi je sais qui je suis,
je vis ma best life.
Ouais, je pense que genre faudrait juste renforcer son estime de soi. Et une fois que tu l'as consolidé, genre avance, vraiment genre avance.
On arrive à la fin.
C'est parti pour le top flop culture. Fais-nous un jingle, s'il te plaît, sur le top flop culture.
Jingle, top flop culture.
Yeah.
Boum. Elle a bougé le micro comme
elle
ça.
Elle a dit jingle.
Au moins,
pour moi, c'est comme ça, c'est comme tous les gens qui font des musiques sur le fait qu'ils font une musique.
Je fais une musique.
La musique, c'est la meilleure. Tu peux pas tester mes paroles, de musique. Musique, c'est le meilleur son.
Mais c'est quoi du coup tes paroles? Vas-y, raconte.
Je comprends pas. Donc s'il y a un truc que tu as lu, vu, écouté récemment, que tu as aimé ou pas aimé, tu nous en parles. Et si tu veux réfléchir, et ben nous on
va commencer. Ah ouais, parce que attendez, je peux allumer mon
comme
téléphone.
Ça, tu feras... Mais bien sûr, tu feras sûrement nous écouter. T'inquiète, un podcast, personne voit que t'es sur ton téléphone.
Je fais souvent
téléphone. Jingle, téléphone. Tellement irrespectueux, elle est sur son téléphone pendant notre podcast.
Je commence. Mais parce que je veux aller au moins un exemple pour que je sache à peu près de quoi.
Vas-y, Kamdar, commence puisque tu l'as forcément comme début.
Allez, moi j'ai deux choses. Ouais. Ok, deux séries, toujours un top plus. Et un flop. Le top, bah tout simplement, j'avais dit que j'arrêtais, je n'ai pas arrêté. Je suis en train de regarder la dernière saison de Grey's Anatomy, donc la saison 19.
Mais tu l'as déjà mise en top.
Non, pas la 19.
Mais c'est
non,
pas
mais
fini.
Pas la 19, mais Grey's Anatomy.
Oui, mais j'explique pourquoi.
Mais attends, j'ai pas compris, c'est pas fini cette émission?
Non, c'est pas fini Grey's Anatomy.
Ah, je pensais que c'est fini depuis des années.
Alors, Grey's Anatomy. Pour moi, c'est la série qu'il faut... Enfin, je la mets souvent en recommandation parce que je trouve que je n'ai jamais arrêté de regarder. Et alors oui, il y a plein de personnages qui sont partis, il y a des histoires d'amour à abracadabrantesque où tout le monde sort avec tout le monde. C'est, voilà, évidemment que c'est ça. Sauf que dans le fond, ça suit extrêmement bien les sujets de société. Et c'est vraiment... J'adore la manière dont c'est pris en charge. Ça se voit que c'est écrit, produit. Enfin, que dans la team, il y a des personnes issue de la diversité, on va dire, ça se ressent infiniment. Okay. Et en fait, là, autant la saison 18, donc l'avant-dernière, était imbitable, je l'ai détestée de bout en bout pour la première fois, autant là, la 19, et c'est pour ça que je savais pas que j'allais continuer.
Mais 19 saisons.
La saison 19, ce qui est trop stylé, c'est que donc là, récemment, aux États-Unis, ils ont annulé la loi Roe versus Wade, qui veut dire qu'ils ont enlevé le droit à l'avortement. Donc il y a plein d'États dans lesquels c'est devenu illégal. Et il y a ça dans la dernière saison de Grey's Anatomy. Et c'est incroyable. Et du coup, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui ont la réponse, ou peut-être même vous ici, peut-être vous l'avez, en fait, ce qui est fou, c'est que du coup, comme c'est interdit dans plein d'États, dans Grey's Anatomy, il y a donc Addison, pour ceux qui connaissent, qui revient. Et avec Bailey, elle crée un genre de camion qui va pouvoir aller un peu partout pour être comme un petit planning familial.
Pour avorter,
pour avorter, et pas que d'ailleurs, parce que en fait,
mais l'annulation de
l'avortement, voilà, il y a tout ce qui va autour, et elles font pas du tout que des avortements, mais elles font aussi ça. Ou une clinique aussi, un dispensaire, enfin ce qu'ils appellent un dispensaire pour aider à tout ça. Et en fait, déjà c'est très touchant de parler de ça, parce qu'évidemment il y a un épisode où il y a une femme qui peut pas avorter alors que son bébé, elle fait genre une grossesse extra-utérine, enfin un truc,
oh,
ça met sa vie en jeu. spoiler alerte, elle meurt.
Ah,
parce que elle est dans
t'as
un
spoilé
état. Ouais, désolée, mais elle est dans
parce
un
que
état.
Moi, je comptais commencer du début jusqu'à la fin. Regardez la saison 19, là.
Ouais, mais attends, là, la saison 19, t'avais regardé aucune saison de
j'ai jamais regardé.
Il y a 22 épisodes par saison. La saison 19, ouais. Tu seras dans 6 ans. Donc,
t'auras oublié le spoiler.
Ok, ça va.
Mais donc, il y a une femme qui meurt. Et donc, il y a des monologues, notamment un monologue d'Addison qui est trop touchant parce qu'elle est là, genre, mais qu'est-ce qu'on fait en fait, enfin, on est des médecins, on peut pas sauver les gens. Et il y a une deuxième chose qui est là, et c'est là où j'ai besoin d'avis de gens, parce que je voudrais savoir si c'est vrai, c'est qu'elles se font harceler, mais abuser par du public lambda.
Dans la vraie vie, tu veux dire?
Oui, dans la vraie vie, en fait, ils retrouvent leurs adresses, leur famille,
qui
ils les menacent au docteur.
Oh,
donc en gros, à Addison et Bellel, les deux docteurs qui font, on va dire, qui font des avortements.
Ah, mais
tu veux dire dans la série.
Pourquoi tu demandes si c'est vrai?
Parce que je voudrais, parce qu'en fait, elles se font, c'est-à-dire que il y a donc des
c'est les actrices
gens
qui se font harceler.
Non, attendez, pas.
Ah,
laissez-moi deux secondes.
Pardon.
Correctement.
Vas-y.
En gros, les personnages, les deux docteurs dans la série font pratiquent des avortements, et dans la série, il y a des anti-avortements qui les harcèlent, mais jusqu'au point où ils les renversent en voiture, jusqu'au point où ils menacent leurs enfants, jusqu'au point où, enfin bref, c'est vraiment du où ils vont
ils menacent de mort, quoi.
De mort, mais c'est très très dangereux. Je voudrais savoir si ça arrive dans la vie, c'est-à-dire est-ce que en ce moment aux États-Unis les médecins qui acceptent encore de faire des avortements, est-ce qu'ils sont vraiment menacés de cette manière-là? Non, mais dans les États où c'est encore légal, parce que là où ça, à Seattle, en gros, là où se passe Grey's Anatomy, c'est légal, mais du coup les anti-IVG sont devenus enfin, ont beaucoup plus le droit à la parole.
Oui, ils ont plus de crédibilité, on va dire.
Et en fait, ils se retrouvent, c'est vraiment terrible, parce que les docteurs qui le font encore, ça te donne envie d'arrêter, parce qu'en fait, tes enfants sont menacés.
On ne sait pas si c'est vrai, parce qu'on n'y est pas, faudrait qu'on demande à des ricains si ça arrive, mais en vrai,
c'est pas du tout improbable.
Enfin, en tout cas, ça me choque pas.
Au pire, c'est les prévisions.
C'est terrifiant. Ouais. Enfin, vraiment,
enfin, si, ça me terrifie, mais ça me choque pas. Ça m'étonnerait pas, quoi, que des véhéments.
Mais parce qu'ils avortent des femmes. Enfin, je veux dire.
Oui, ils sont pro-armes, ils sont.
Non, mais les anti-IVG que tu ailles manifester devant une clinique en disant attention, ton bébé a des ongles. Déjà, je trouve ça absolument abject, mais bon, t'as une pancarte.
C'est horrible.
Mais que tu ailles menacer une petite fille de 6 ans parce que sa mère est docteur. Enfin,
c'est la dissonance cognitive pure, genre. C'est,
Vous tuez des
et c'est ce qu'elle dit.
Alors,
voilà.
Je vais vous tuer votre enfant. What the fuck? T'es contre quoi, en fait?
Mais ils sont pour la peine de mort, mais contre l'avortement parce que pro-life.
Voilà. Ils vont être pour la peine de mort, par exemple, pour une femme qui avorte, par exemple.
Oui, c'est ça.
Oui, super. On est à jour, là.
C'est en ça où, là, regardez la dernière saison de Grey's Anatomy. Au-delà du fait que c'est hyper divertissant, ça reste une série addictive.
Oui, elle est aussi tout à fait divertissante, cette série.
Ils l'ont vraiment pris à bras le corps, cette thématique là dans la dernière saison, et
c'est raide.
Voilà ma roco. Et après, autre question, avez-vous vu la série Toujours là pour toi ou Firefly Lanes?
Non.
Avec notamment Izzy dans.
Et oui, c'est ça.
J'ai regardé l'épisode 1. Je
peux
pas t'en dire plus encore, mais je sens que je peux bien aimer.
Mais c'est sur quoi?
C'est sur Netflix aussi.
Ah non,
et je l'ai regardé parce que j'ai vu plusieurs personnes faire des posts en mode waouh, la deuxième saison trop stylée. J'ai des gens à qui dont la vie m'importe en termes de reco série qui m'ont dit c'était trop bien. J'ai regardé, mais je me suis ennuyée de bout en bout. Voilà. Okay.
Après, pas la première fois qu'il y a plein de gens qui trouvent une série
non.
super
oui,
et que
tu t'ennuies de bout en bout.
Non, mais c'est pour ça que je le dis.
Oui,
parce
que tu voulais une autre.
En fait, ça fait aussi un autre son de cloche.
Son de cloche. Après, ça parle d'une amitié féminine.
Je pense que je vais continuer.
C'est bien. C'est deux meufs qui sont besta, mais du coup, j'y ai trouvé assez peu de choses. Il y a beaucoup trop d'épisodes pour raconter finalement
rien.
Pas grand-chose. On suit à trois époques différentes quand elles sont ados, puis quand elles ont 15 ans, quand elles ont 20 ans et quand elles en ont 40. Et c'est la même actrice qui joue à 20 ans et à 40 ans, ce qui est déjà pour moi un gros problème parce que c'est complètement pas crédible. Elles ont des perruques mal faites et les effets spéciaux. Enfin, elles ont, en gros, on dirait qu'elles ont le filtre Paris.
Ah oui.
Ouais, quand elles ont 20 ans.
Okay.
Et que quand on met normal quand elles repassent à 40 ans. Ouais, je suis plutôt assez peu convaincue par cette série que j'ai trouvée assez ennuyeuse. Mais est-ce que c'est parce que j'ai été habituée à des séries un peu rocambolesques sur les histoires d'amour et que là, ça met en avant une amitié féminine?
Je ne comprends toujours pas pourquoi ta série préférée, c'est Normal People, où il se passe rien.
Ben parce que c'est une histoire d'amour.
Ouais, voilà.
Je crois.
Bon. Ah, tu préfères l'amour que l'amitié. Ah, d'accord. Ok, on est là.
Et toi, du coup? Alors, moi, je vais prendre une série télé-réalité. Alors, il faut savoir que moi, déjà, j'adore la télé-réalité. Mm-hmm. C'est vraiment genre une passion. Oui, même les trucs les plus débiles, je regarde de tout. J'adore ça. Pour moi, c'est une extinction de cerveau. J'adore, c'est vraiment ma passion. Et là récemment sur Netflix, il y a eu Ultimatum, qui est une série en gros, enfin une série.
Ah, j'ai pas regardé, mais.
Ah, mais non,
en
gros,
mais
c'est des couples.
On m'a dit que c'était une catastrophe.
Ah, moi j'ai bien aimé.
C'est vrai.
C'est des couples en gros qui se posent un ultimatum en mode soit on se marie, soit je te quitte. Donc déjà c'est un peu dramatique.
On m'a dit que c'était full drama.
Ouais, et cette année, ils ont fait une version avec que des femmes, donc des couples de femmes. Et moi, à titre personnel, alors je trouvais ça un peu lent au début parce qu'en fait, tu sais, dans la télé-réalité, ils aiment trop te faire un teasing de fou avec genre, oh my god, il va y avoir ça, et tu vois des images au ralenti, tu dis, oh mon dieu, ça va être incroyable. Et après, l'épisode, il commence vraiment lentement, et t'es là, genre, bon, les dramas, les disputes, c'est quand ? Et j'ai mis du temps à m'y mettre à la série parce que je trouvais ça, au début, j'étais trop, ça trop lent, et puis un peu, ça sonnait un peu scénarisé parce qu'ils mettent beaucoup de ralentis, comme je disais, des musiques dramatiques et tout. Bon, comme dans toutes les télé-réalités, vous allez me dire. Et là, je sais pas, genre, je me suis quand même prise dedans. Et en fait, pour le principe, je sais qu'il y a aussi plein de gens qui soutiennent la saison avec que des meufs, juste pour le principe de se dire, oh my god, on a enfin une série télé-réalité sur nous où on voit plein de couples différents qui s'aiment, qui ont des issues différentes, qui ont des problématiques différentes, sans que ce soit forcément le sujet qu'elles soient lesbiennes, tu vois. Genre, c'est des lesbiennes qui ont des dramas, mais c'est pas le sujet, c'est pas on est lesbienne. Le sujet, c'est on s'aime, on s'aime pas. Couples, ouais. Est-ce qu'on va se marier, est-ce qu'on va pas se marier, est-ce que t'es prête à avoir des enfants, est-ce que t'es prête à te marier, est-ce que t'es prête à me soutenir dans ma vie, et est-ce que t'es solide sur tes appuis pour me marier, etc. Donc, je trouve qu'en fait, c'était assez marrant de voir des couples de lesbiens avoir juste des problèmes d'hétéro, en fait, au final, genre très basique. Et je sais pas, je trouvais ça assez, assez reposant. Genre, je sais pas, j'ai trouvé ça drôle parfois, triste parfois, prenant parfois, parfois ennuyant. Mais du coup, ça faisait partie du truc. Enfin, moi, j'étais juste contente de voir genre, les télé-réalités que je regarde d'habitude, mais avec que des meufs. Et j'aimerais tellement, tellement qu'ils reprennent toutes les télé-réalités, genre vraiment, mais toutes, et qu'ils me les adaptent toutes qu'avec des meufs ou avec des mecs, ou tu vois, genre en mode avec des personnes queer et tout. Genre, mon rêve de voir, genre, dans la Villa des Cœurs Brisés en France, ils ont quand même eu pas mal de personnes LGBT. Mais que ça, que des gens soient, genre, bi, lesbienne, gay, que ça. Mon rêve sur Terre. On reprend tout, on recommence tout.
Ah là, genre, dans la Villa des Cœurs Brisés, en ce moment, il y a des personnes LGBT. Oui, moi, je regarde très peu, mais le peu que j'ai regardé, c'est toujours tellement hétéro-binaire.
Non, cette année, t'as quand même. Alors, t'as beaucoup de personnes bi, principalement, parce qu'on sait qu'on peut leur ramener un peu tout le monde. Ils sont moins 4. Ils sont moins 4, je crois, cette année, de personnes bi, ce qui est un record, toute télé-réalité confondue, je crois. Ouais. T'as une femme trans aussi, qui est sur TikTok, c'est une TikTokeuse aussi. Okay. Et t'as un mec bi, d'ailleurs, aussi. Donc, ce qu'on voit hyper rarement, pour le coup, je trouve que les mecs bi, on dirait qu'ils n'existent pas.
Ouais.
Mais en fait, si, il y en a plein, mais bon, on les voit pas forcément. Donc, moi, cette saison, j'ai trouvé ça assez cool. Puis même, il y a plus de personnes racisées que dans d'autres saisons de la Villa. Il y a un couple, justement, de deux mecs noirs et gays. Enfin, ils sont bi, mais du coup, ils sont en couple.
Okay.
Donc, ils sont ensemble, quoi. Donc, un couple de garçons. Enfin, c'est trop bien. Enfin, moi, j'ai trop aimé. Genre, juste, ça fait du bien, genre, d'allumer sa télé, de se dire, ah, peut-être qu'il y a un couple avec lequel je vais pouvoir m'identifier. Ou...
Bah oui, moi, je trouvais ça assez pauvre dans le peu que je voyais de télé-réalité.
Mais c'est dommage, j'avais pas beaucoup de diversité.
On est encore là en 2023.
Non, cette année, la Villa, ils ont vraiment fait un effort de fou. Tu vois la différence. Ah ouais, ils ont vraiment. Après, ça fait pas beaucoup d'audience. Mais parce que je pense que les gens sont un peu lassés de la télé-réalité en général. Oui. Moi, j'ai tout regardé.
Oui, je pense qu'ils regardent de moins en moins les gens, la télé-réalité, j'ai l'impression. Ouais. Avec tous les dramas et tout qu'il y a eu.
Ouais, c'est à cause des influenceurs, enfin des influvoleurs, comme ils disent.
Oui, oui, notamment. Oui,
oui, puis ça, les mecs violents aussi, le nombre de.
Ouais, il y en a beaucoup. Mais après, il n'y en a pas plus que dans le cinéma, par exemple.
Non.
Les gens regardent toujours des films, pourtant, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que c'est plutôt l'image véhiculée de manière générale sur les réseaux, parce qu'il y a ce côté influenceur.
C'est juste que ça s'en cache moins en télé-réalité, parce qu'il y en a qui disent directement des
concernés. C'est qu'au cinéma, c'est encore plein de l'ancienne génération qui va au cinéma, ou des enfants qui ne sont pas encore en mode je veux pas aller voir des agresseurs. Alors que à la télé-réalité, on est potentiellement sur leur cœur de cible, c'est-à-dire du 15-35 ans, qui je pense est le cœur de cible aussi de la déconstruction et de l'envie de faire mieux, tu vois.
Je pense que la différence, c'est qu'au cinéma, on est attaché au jeu des acteurs, on va voir le film pour le jeu des acteurs. La télé-réalité, on regarde les gens pour les gens. Du coup, si la personne est une mauvaise personne dans la télé, c'est une mauvaise personne. Si la personne est mauvaise personne pas dans la télé, mais dans la vraie vie, c'est toujours une mauvaise personne. Donc je pense que c'est ça la différence, c'est le côté
rôle
personnel. Tu t'attaches à la personne, rôle, pas à la star, Non, c'est lui, c'est Bidule avec son prénom que je suis dans la télé, qui est sorti avec machin, dont tu connais toute la vie privée, tu vois. C'est ça la différence.
C'est vrai. Voilà. Et toi, Justine, un petit top ou flop ?
Eh ben ouais, des gens bien ordinaires. Une série d'Ovidie, donc avec notamment Sophie Marie Laroui et Andrea Bescon, que j'adore. C'est une série donc française en 8 épisodes de 10 minutes. J'adore ce format, 10 minutes, je trouve ça trop cool. C'est 10, 12 ou 15, ça dépend des épisodes, mais en gros, c'est vraiment consommable comme ça en une soirée. Et du coup, c'est un petit gars, un petit gars, on dirait comme ça, on dirait qu'il va être super jeune, mais parce qu'il est vraiment, il est tout frêle, c'est un petit blond tout frêle de à peine 18-20 ans, qui se lance dans l'industrie du porno pour se rebeller un petit peu contre sa famille. Et en fait, on comprend, alors je sais pas si c'est moi, et du coup, je sais pas si je dévoile un twist, parce que je pense qu'on le capte direct, mais moi, je mets toujours un peu plus de temps à comprendre, parce que je sais pas, j'ai un cerveau un peu ramollo pour ce genre de choses, les twists dans les films et tout, je mets un peu de temps à les comprendre. Et moi, j'ai compris en tout cas au bout du troisième épisode que tous les genres étaient inversés dans cette série, et que en gros, le mec, il joue plutôt une meuf qui voudrait se lancer dans le porno. Et je comprenais pas dès le début, alors que c'est quand même trop con, parce qu'il arrive sur un tournage et il y a que des meufs réalisatrices, productrices et tout.
Ah
ça.
Oui.
Et du coup, j'aurais pu le comprendre direct, je suis teubée. Mais en fait, je le comprends vraiment à une phrase clé qui se passe au troisième épisode, je sais plus laquelle c'est. Et je me suis dit, ah, bien vu.
Bien c'est assez vu. Subtil pour que tu
bah,
pas
en
forcément...
vrai, oui, du coup, voilà, c'est ça que j'ai bien aimé dans cette série, c'est que c'est pas grossier. Et le mec en question, il sort avec une meuf violente. Voilà, tout est.
Mais du coup, est-ce que c'est clair que ça dénonce au final
oui.
Si c'est
bah voilà,
pas sûr
coup,
que
oui.
C'est inversé
oui, oui. Enfin... Non, non, ah, si, si. T'es okay. Obligé de le comprendre que c'est inversé. Okay. Moi, je l'ai vraiment compris à la phrase clé. Je pense que toi, typiquement, tu l'aurais compris à l'épisode 1. Il y a vraiment Sophie Marie Laroui qui est du coup l'actrice porno de la bande, mais qui est vraiment, bah, effectivement, un acteur porno. Genre, aucune ouais. Question à se poser sur ce qu'on pense d'elle. C'est la BG de la bande. Elle se tient un peu comme un bonhomme, je mets des guillemets. Enfin, voilà. Et c'est très. C'est en fait très subtil et très bien fait. Et j'aime bien ce genre de monde un peu dystopique.
Et
genre, quand tout est inversé.
Il y avait un
ouais,
film,
et si j'étais un homme.
Je ne suis pas une fille facile, je crois, un truc comme ça.
Ah oui, je ne suis pas.
Ouais, c'est ça.
Ou est-ce que je comprends mieux le monde est inversé.
Je comprends pas pourquoi on me l'a conseillé du coup, parce qu'on me l'a conseillé.
Ouais,
cette,
voilà, et
cette...
en fait, il y a un impact. Au tout début, je me dis, bon, c'est quoi l'histoire d'un mec là qui se lance dans le porno quoi et quoi. Vraiment, pendant 2-3 épisodes, j'étais là, mais et quoi. Et alors là, je comprends pas l'histoire, c'est bizarre. Et quand j'ai compris que c'était inversé, j'ai dit, ah, le voilà l'intérêt. Et là, tu comprends beaucoup. Et ça y est, il y a tout qui
ça
devient
bien.
D'accord, c'est pour ça qu'on lui parle comme ça. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il sort avec une meuf comme ça. Ah, d'accord. Là, tout prend un peu du sens. Et voilà, j'ai trouvé ça très bien joué, très bien réalisé et très, très cool à regarder.
Bah, je vais regarder.
Ça ouais, se regarde ouais. Tout
c'est
seul.
Sur quoi France TV
Canal.
Slash
Canal.
Canal. Ah,
ouais.
Canal.
Ouais, ah. Création décalée, Canal.
Ok, okay trop cool. Bien.
Eh bien, vous voilà plein de petites recommandations, dont 19 saisons de Grey's Anatomy.
J'avoue.
Et toute la télé-réalité, ni plus ni moins.
Ouais, et une petite série, là, comme ça, de 8 épisodes de 10 minutes.
À choisir.
Et bah, merci Annabelle d'être venue partager
merci
ce moment
à
avec
vous.
Les gens peuvent te retrouver sur les réseaux, donc sur ton compte mrea, aim.rea.
C'est ça.
Sur YouTube, TikTok, Insta.
Ouais. C'est ça.
Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode dans ce
oui.
Merci.
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 Bye.
Bye.
On espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes audio, à le faire tourner, nous laisser des étoiles, des cœurs, des mots doux, des commentaires quand c'est possible. Ça nous aide à référencer le podcast.
Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur Instagram et même sur Facebook pour les plus vieux d'entre vous en tapant Camille et Justine. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro.
Merci. Bye.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.